Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Prions. Excellent Père de gloire, Saint-Esprit de Dieu, une fois encore, nous venons te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur Jésus pour nous avoir achetés, pour nous avoir redonné la grâce de la vie. Merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit est sur nous tous les jours, qui nous guide, qui nous instruit, qui nous fortifie, qui nous coach. Merci Seigneur, parce que toutes les fois, chaque fois et toujours, quand nous sommes réunis ici, tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, sois ici le premier des invités, sois celui qui nous précède, celui qui boucle la marche. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous ici d'être en parfaite communion avec toi. Qu'il te plaise de prendre le contrôle de ce qui va se dire ici, d'édifier les uns et les autres. Donne une parole à quelqu'un, édifie quelqu'un, donne ta sagesse à quelqu'un, Seigneur. Tu as dit que s'il y a un autre manque de sagesse, qui te la demande à toi, qui la donne à tous sans les juger, pour peu que nous demandions avec la foi. Oui, Seigneur, nous venons ensemble, unis dans le même esprit, pour te demander avec foi ta sagesse. Guide-nous, Seigneur, pendant ces 2 jours, ces 4 jours, parce que nous avons 4 jours cette semaine et la semaine prochaine pour travailler ensemble sur la sagesse. Qu'il te plaise, Seigneur, d'être vraiment l'alpha et l'oméga de cet atelier, qu'il soit un atelier puissant en termes d'impact sur chacun de nous. Nous savons que tu l'as déjà fait, comme tu l'as toujours fait. Sois béni, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, comment allez-vous? Comme d'habitude, nous allons commencer par les attentes. Quelles sont vos attentes par rapport à ce séminaire? On y va.
C'est quoi la sagesse? La sagesse de Dieu est-elle différente de celle de l'homme? Ensuite, chez nous, traditionnellement, on dit que quand on voit quelqu'un avec les cheveux blancs, quelqu'un qui est déjà plus âgé, on le considère comme un sage. Est-ce une réalité ou quelque chose qui est factice, quoi, qui n'est pas naturel?
D'accord.
Merci. Ensuite.
Bonsoir.
Bonsoir.
On voudrait savoir la différence entre la sagesse et la connaissance.
Oui, on avance.
Corrélation entre sagesse et vérité.
Oui, d'autres questions, d'autres attentes? Allons-y rapidement.
Une chose est de savoir ce que c'est que la sagesse, mais moi je m'intéresse à comment s'approprier la sagesse de Dieu?
Oui.
L'autre volet aussi, est-ce qu'on peut la partager?
D'accord.
La sagesse de Dieu est-elle différente de la parole de Dieu?
Oui. Est-ce que le fait d'être rempli du Saint-Esprit veut dire qu'on possède la sagesse de Dieu, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord. Oui.
Bonsoir. Moi, j'aimerais demander, est-ce qu'un jeune peut détenir de la sagesse?
D'accord. Ensuite?
Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir si la sagesse est un don de Dieu ou l'on acquiert ça dans la vie de tous les jours.
Oui.
À qui Dieu accorde-t-il la sagesse? Est-ce aux humbles ou aux égoïstes?
D'accord. Ensuite?
La Bible déclare que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. J'aimerais demander pourquoi chaque jour nous demandons la sagesse de Dieu et nous ne la possédons pas.
Oui.
Je voudrais savoir,
Est-ce que je peux m'appeler sage si je respecte les parents à la maison?
Ok, ça rentre déjà dans cette question. Être sage que les parents demandent versus obéir aux parents. C'est déjà pris en compte dans cette préoccupation.
Moi, je voudrais savoir s'il y a des conditions particulières à remplir pour pouvoir bénéficier de la sagesse divine.
D'accord, on y va.
Je voudrais savoir si nous avons la sagesse de Dieu, est-ce qu'il peut arriver que par notre comportement ou bien notre désobéissance, on puisse perdre cette sagesse?
D'accord. Bon, alors, si on n'a pas, on va commencer. Les autres questions viendront ensuite. David, s'il te plaît, on va lire la définition que le dictionnaire donne du mot sagesse.
Sagesse, connaissance juste des choses.
Connaissance juste.
Des choses.
Oui.
Parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir.
Un instant, parfaite connaissance de toutes les choses que
l'homme peut savoir.
Et ensuite?
Connaissance inspirée des choses divines et humaines.
Connaissance
inspirée des choses divines et humaines.
Oui.
Le don de sagesse est l'un des sept dons du Saint-Esprit. Livre de sagesse. Livre de l'Ancien Testament attribué à Salomon.
Oui.
Le Saint-Esprit, livre de sagesse. Livre de l'Ancien Testament attribué à Salomon. Maintenant, après, il y a vertu.
Oui.
Comportement juste, raisonnable.
Oui.
Pratique des vertus chrétiennes.
Oui.
Qualité, conduite du sage, modération, calme supérieur, joint aux connaissances.
Parfait. OK. Alors, j'aime de plus en plus le dictionnaire. Sagesse, définie par le dictionnaire, donc ce n'est pas défini par des chrétiens. Connaissance, juste des choses. Parfaite connaissance. Tout peut savoir. Connaissance inspirée. Chose divine et humaine. Don de sagesse, là, et un rapport direct avec le Saint-Esprit. La sagesse va aussi avec Salomon, essentiellement avec le livre des Proverbes et Ecclésiaste, qui sont parmi les deux grands livres qu'il a écrits. Modération, calme, qui va avec la connaissance. On parle là en réalité de l'humilité. C'est de la vertu, c'est un comportement juste, c'est raisonnable. Et ils ont mis vertu chrétienne, on avait déjà vertu. Donc, je résume les mots-clés que le dictionnaire nous propose par rapport à la sagesse. C'est de la connaissance qui doit être juste, c'est une connaissance qui doit être parfaite, c'est une connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir, on y reviendra tout à l'heure, c'est une connaissance inspirée des choses divines et humaines. Le Saint-Esprit vous le donne à travers le don de la sagesse. Salomon est réputé universellement comme étant le plus grand sage de tous les temps. Et donc, quand vous lisez ces deux livres, Proverbes et Ecclésiastes, vous avez un échantillon ou un assez bon condensé de sagesse. Et qui dit sage, dit modération, dit calme, dit humilité, dit comportement juste, une fois encore juste, dit vertu, dit raisonnable et chrétien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire qui lit sagesse et chrétien, qui lit sagesse et Dieu. C'est un dictionnaire français, hein, pour tout le monde. Nulle part, ils n'ont dit islam, musulman, bouddhiste, hein, c'est dictionnaire de tout le monde. Ils ont mis chrétien dedans. Parfait. C'est quelle la référence du dictionnaire? Il faudrait la référence du dictionnaire. Ils vont croire que c'est un dictionnaire chrétien qu'on a pris. C'est le petit Robert, c'est ça, ou le grand Robert? Le petit Robert de 2010, même dans le petit, donc dans le grand, ça va être encore pire. Alors, qu'est-ce que la sagesse? Voilà comment le dictionnaire le définit. On va essayer de suivre le dictionnaire. Nous savons, en tant que chrétiens, que la Bible nous dit une chose très importante. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu n'est pas la sagesse. C'est la première étape de la sagesse. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire qu'il est sage s'il ne craint pas Dieu. C'est ça que ça veut dire en français. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quoi qu'il ait dans la tête, quoi qu'il fasse, c'est impossible qu'on puisse l'appeler un sage. Parce que cela veut fortement dire qu'il n'a aucune connaissance juste des choses. Ce n'est pas possible d'être un sage qui ne craint pas Dieu. Après, on peut voir les différentes conceptions de Dieu. On verra ça encore. Mais la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et quand vous voyez toutes les définitions qu'on peut donner à la sagesse est différente de la connaissance. Quelqu'un d'intelligent n'est pas forcément quelqu'un de sage. Et quelqu'un qui connaît beaucoup de choses n'est pas forcément quelqu'un de sage. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait 10 doctorats qu'il est sage. Il est tout au plus lettré diplômé. Ça n'a aucune incidence sur sa sagesse. Ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il est sage.
L'intelligence fait référence à la capacité qu'on a à réfléchir vite, à réfléchir bien, à régler des problèmes, à affronter des situations complexes. Bref, l'intelligence fait référence à une capacité mentale d'analyse, de conception, de réaction. Elle est utile si elle va avec la sagesse. La connaissance, c'est le fait de connaître des choses, de savoir des choses, d'avoir des informations sur des choses. On peut avoir un peu de connaissances ou beaucoup de connaissances. Mais une fois encore, la quantité de connaissances n'est pas la seule variable qui détermine la sagesse. La sagesse vient à la fois de la quantité, de la qualité, de la justesse des connaissances qu'on a. Le sage, c'est celui qui sait beaucoup de choses essentielles et vraies et qui, en conséquence, va avoir un comportement juste, un comportement modéré, un comportement calme, un comportement vertueux, un comportement obéissant. Quelqu'un qui saura des choses à la fois sur la troisième dimension, des choses qui ont rapport à l'homme, et des choses sur la quatrième dimension. Vous allez voir, quand on dit que les vieux sont sages, c'est tout parce que quelque part ils sont féticheurs, ils sont dans des trucs ésotériques, ils connaissent des rituels. On ne peut pas parler de sagesse en se limitant au savoir de la troisième dimension. Ça, c'est utile, mais les vrais sages en savent sur la troisième dimension, ils en savent aussi sur la quatrième dimension, ils en savent sur Dieu. Et donc, être sage, c'est en savoir beaucoup de qualité et en savoir beaucoup de vrai. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des connaissances que les gens accumulent sont fausses. L'essentiel de ce que nous apprenons à l'école est faux. Je dirais même que la majorité de ce que nous apprenons à l'école est faux. Tout est faux, ou en tout cas, beaucoup de choses sont fausses. Donc, je connais des gens qui ont 10 doctorats, qui ne leur servent à rien, parce qu'ils savent beaucoup de choses qui ne valent rien. On ne peut pas savoir les choses justes, on ne peut pas avoir une parfaite connaissance des choses justes, et que ça ne serve à rien. Nous sommes dans un monde où l'école, où la science, où sous prétexte de cultiver un certain nombre de choses, Satan a fabriqué une série de connaissances futiles, de pacotilles de connaissances qu'on donne à manger en quantité industrielle aux gens, en commençant par les enfants. Et les gens finissent par penser qu'ils sont brillants, alors que tout ce qu'ils savent est faux et ne sert à rien. Quand vous regardez le monde globalement, il est presque partout en crise. Une crise, c'est quoi? Une crise, c'est que on fait quelque chose d'une certaine manière, ça semble marcher, on semble être sur un chemin tout droit, sans problème, et subitement on arrive à un carrefour. Le mot crise vient du mot croix. C'est-à-dire qu'une crise, c'est quoi? Je suis sur un chemin comme ça. Je pensais que j'allais avancer tranquillement, continuer de me la couler douce, quand subitement je tombe sur un carrefour. En soi, le carrefour n'est pas un problème. Une crise, ce n'est pas un problème, c'est une crise. Une crise, c'est une croix. C'est le carrefour où on arrive et on se dit, bon, maintenant, c'est plus si simple que ça de rouler. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Ou est-ce que je retourne carrément en arrière? Les crises ont pour caractéristique, non pas des situations qui posent problème, mais des situations où on a au moins 3 scénarios, ou 4, ou plus, et il va falloir choisir. Mais on va choisir en fonction de quoi? Sur la base de quoi on sait que le choix sera bon? Et c'est là où on se rend compte que, mais, tant qu'il n'y avait pas de problème, tant qu'on avançait sans avoir le choix, tout semblait évident. Au premier scénario qui montre que, ah, c'est pas si simple que ça, on commence à se demander, mais ça repose sur quoi? Regardez les crises économiques mondiales, c'est ça? Les gens font plein de théories, économie libérale, la liberté des marchés, toutes ces futilités qu'ils nous racontent. Et à la première crise, ils se réunissent, G8, G20, G22, G100, ils ne trouvent jamais aucune solution à part de bavarder. Parce que dès qu'il faut prouver qu'on est intelligent, ils réalisent rapidement qu'ils ne savent pas grand-chose de ce qu'il faut savoir. Et la crise vient leur rappeler que s'ils ont parcouru tout ce chemin, ce n'est pas parce qu'ils sont brillants, c'est parce qu'ils ont été chanceux. Parce que dès qu'il y a carrefour, ils ne savent plus où aller. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils sont. Quand tu sais où tu vas et que tu en connais le chemin, au carrefour, tu sais quel chemin tu prends. Mais quand à un carrefour, tu paniques, c'est que tu ne savais pas où tu allais. À chaque carrefour, le monde panique. Et je vais vous rappeler des exemples, on n'a pas beaucoup de temps, pour vous montrer la futilité de la science. La futilité de ce que le monde appelle aujourd'hui connaissance. Vous prenez, je donne souvent cet exemple, l'université, pour ceux qui ont des affaires de l'université ici. Mais c'est une machine à fabriquer le faux, qu'on m'excuse. C'est une machine à fabriquer le faux. D'abord, on boue les enfants de choses qui ne servent jamais à rien. Je connais des professeurs qui ont écrit sur des fiches des cours depuis 1981 qui les dit aux étudiants jusqu'à aujourd'hui. Vrai ou faux? Est-ce que c'est normal que 30 ans après, on dit les mêmes cours aux étudiants et qu'on soit payé pour ça? Mais maintenant, ils saisissent ça. Bon, mais c'est le même cours. Je donne un autre exemple. On a dit connaissance juste. Le dictionnaire, hein, c'est pas moi. Parfaite connaissance de toutes les choses. Connaissance juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est vrai. L'université n'a jamais une réponse vraie. Elle ne sait jamais ce qui est vrai de ce qui est faux. La preuve, pour estimer que vous êtes devenu bon, on dit que vous avez la maîtrise. La maîtrise, c'est le moment où on dit que les gens commencent à être bons, ils commencent à maîtriser les choses. Mais tout étant vanité des vanités dans ce système-là, pour démontrer que vous maîtrisez les choses, vous faites un travail qu'on appelle tantôt mémoire, tantôt tel. C'est la même chose. Et globalement, ce qui moi m'énerve dans cette méthode, c'est que vous faites ce qu'ils appellent brillamment thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire que vous prenez quelque chose, vous démontrez la thèse, c'est-à-dire vous dites ça, c'est vrai. Aller à droite, c'est la meilleure solution. Vous le démontrez en citant les plus grands auteurs du monde, exemple rhétorique à l'appui. Vous finissez de faire ça, vous dites que non, aller à droite que vous venez de démontrer vrai, là n'était pas vrai. C'est aller à gauche qui est vrai. Et avec d'autres grands auteurs tout aussi brillants que les autres, avec autant de livres, vous démontrez aussi que cette deuxième chose contradictoire, la première est vraie. Et vous finissez par dire, comme si ça ne suffisait pas qu'il y ait deux vérités, non, en fait, rien de tout ça n'est vrai. La vérité, c'est qu'il faut ni aller à gauche ni aller à droite. Il faut être un imbécile qui ne sait ni choisir entre l'âne et le foin. Et tous les mémoires consistent en ça. On a mention honorable pour avoir osé affirmer devant un parterre de personnes qui se disent intelligents que les choses sont leur contraire et rien à la fois. Moi, je suis un mathématicien. On m'a appris à l'école que quand A est égal à non A, ça implique quoi? A égale à non A, ça implique... Qui a fait un peu de mathématiques ici? Ça implique quoi? Quelle est la seule manière de faire en sorte que A soit égal à non A? Que A soit égal à zéro. Ou bien, quand on peut faire la thèse et l'antithèse d'une chose, elle ne vaut rien. C'est ce que les mathématiques nous disent. Si j'ai menti, dites-moi. Je ne fais que parler des choses qu'on a apprises à l'école. Mais voilà, on réunit des gens, des experts, des agrégés, des docteurs du monde entier. Ils viennent s'asseoir et prennent des perdièmes pour démontrer ou pour aider les gens à démontrer que A est égal à non A et ça mérite des mentions honorables. Et après, on met ça dans la société, on essaie de l'appliquer. Évidemment que la société ne vaut rien. On va à gauche, on va à droite, on tourne en rond. Les gens disent doctorat, c'est avec eux que l'économie a le plus de problèmes. Ça n'a aucun sens, parce que ça ne vaut rien. La vérité, c'est la vérité. L'université, incapable de trouver la vérité, a bâti un système qui dit que la vérité est le contraire de la vérité et que le tout est vérité. Et on a des vieux pouvoirs, personne n'a jamais vu ça parmi nous les diplômés. Moi-même, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps, pour vous montrer à quel point on a des moutons de panurge. Si je mens, vous me dites, hein, c'est pas comme ça? Est-ce que c'est normal? Comment le monde peut fonctionner quand l'intelligence consiste à démontrer qu'une chose est son contraire et que les deux sont vrais? Est-ce que c'est logique? Puisque la science prétend être logique. Ça veut dire que la science est une série de connaissances injustes et imparfaites des choses. Aujourd'hui, on vous dit qu'il faut bourrer tous les enfants de Nivakine. Quel Nivakine, quel Flavokine, je n'ai pas bu quand j'étais enfant. Aujourd'hui, les mêmes médecins ont changé d'avis. Il ne faut plus donner, il ne faut plus faire de prévention sur le palud. Aujourd'hui, on vous sort un médicament, tout le monde le boit, on fait des publicités. Deux ans après, on dit, bon, ce médicament n'est plus mauvais, ça a tué les gens, il faut le laisser tomber. Et rien ne se passe. Ou bien, c'est ça la science. Aujourd'hui, on affirme que quelque chose est impossible, quelque chose est faux. Demain, la même science, avec cette thèse, l'antithèse, dit que ça, c'est la vérité maintenant. Et tout le monde court derrière. Ce n'est qu'un exemple pour montrer la foutaise du monde que nous appelons scientifique, rationnel, intelligent. Et si le monde a des problèmes, c'est parce qu'il est basé sur une série de connaissances ridicules auxquels les gens accordent de la crédibilité. Le monde n'est pas sage. Dieu dit que la sagesse des hommes est une folie. Voilà la preuve, c'est de la folie, de l'imbécilité. Le chrétien, ou celui qui connaît vraiment Dieu, le plus bête des gens qui craignent Dieu, est probablement plus intelligent que ceux qui ne craignent pas Dieu. Parce qu'au moins lui, il connaît une vérité. C'est que Dieu est l'alpha et l'oméga. Pourquoi, par exemple, on n'arrive pas à lutter contre la corruption, à rendre les gens vertueux qu'on sort? J'expliquais ça à quelqu'un sur Internet la dernière fois. On ne peut rien faire pour rendre un homme bon s'il ne craint pas Dieu. Si quelqu'un n'a pas peur de Dieu, de quoi il va avoir peur? Celui auquel on n'a pas pu faire craindre Dieu, qu'est-ce qu'on va lui faire craindre? Son papa? Le président? La police? Qu'est-ce que quelqu'un qui ne craint pas Dieu va craindre? Donc quand les gens disent, je vois des gens dire, oui, tout a échoué, quelle association? Je dis, mais revenez à Dieu. On dit, non, je veux dire des choses concrètes. Dieu ne règle pas le problème. Je dis, mais justement, si vous êtes tellement bête que vous ne pouvez pas comprendre que Dieu est la solution, c'est normal que vous ne trouviez jamais de solution. Parce que ce que Dieu ne peut pas faire faire à quelqu'un, est-ce que c'est l'homme qui va lui faire faire? Si un chef, si un responsable, si un père, si une mère ne craint pas Dieu, qu'est-ce que qui peut faire pour qui? Pour l'influencer. Dieu a pouvoir de vie et de mort sur les gens. Ils ont beau être païens n'importe comment, quand ils sont malades, quand la mort arrive, ils se rappellent que Dieu existe. Quand des gens dans cet état-là peuvent s'en foutre de Dieu, de qui ils ne vont pas s'en foutre si on est intelligent? Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, si je veux que nous revenions à la sagesse divine, c'est parce qu'elle paraît évidente. Mais nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est exactement comme ça a commencé depuis Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? On revient toujours au commencement. La Bible nous dit que quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, ce fruit qui n'était rien d'autre d'après la Bible, que que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, leurs intelligences se sont ouvertes et se sont vues nues. Alors, vous ne vous demandez pas pourquoi la Bible dit, d'abord, quand on dit fruit interdit, ça n'a rien à voir avec le sexe. Il ne faut pas que les ignorants continuent de raconter des bêtises. La Bible explique très clairement de quel fruit il s'agit. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire quoi? Si vous êtes un papa ou vous êtes une maman, vous dites à votre enfant, on ne fait pas ci, ne touche pas ça. L'enfant qui se dit, oui, papa a dit de ne pas toucher, mais étant donné telle chose, je vais toucher, est déjà en train de désobéir. La désobéissance, ce n'est pas le fait de comprendre que ce qu'on fait est mauvais de le faire. La désobéissance, c'est de commencer à réfléchir sur ce qui a été interdit. On est d'accord? La désobéissance pour un enfant, ce n'est pas le fait de décider de désobéir. C'est le fait d'oser commencer à réfléchir à la pertinence de l'interdiction faite par ses parents. Et en général, dès qu'un enfant s'autorise à commencer à réfléchir sur « Bon, papa a dit de ne pas faire, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un peu ?» C'est fini, tôt ou tard, il va désobéir, rien à faire. Pour ne pas désobéir, il faut que l'enfant soit dans la logique. On lui dit « Je ne veux même pas entendre, papa a dit de ne pas faire, moi je ne fais pas. » On est d'accord? C'est ça que Dieu attend des hommes. Dieu attend de nous que, quand il nous a dit quelque chose, nous le croyons sur parole, ne réfléchissions pas, ne discutions pas, et faisons exactement ce qu'il a dit sans réfléchir. Mais le problème avec les hommes, poussé la première fois à cela par Satan, c'est que chaque fois que Dieu dit « ne faites pas ça » ou que Dieu dit « faites ci », nous commençons à réfléchir pour voir si Dieu a eu raison ou s'il n'y a pas d'autre chose qui soit plus logique. Or, il n'y a pas deux leaders dans le monde. Il n'y en a que deux, Dieu et Satan. Chaque fois que vous réfléchissez à une alternative autre que celle de Dieu, sachez qu'il n'y a rien d'autre qu'une alternative de Satan. Le monde n'a que deux pères, le prince des ténèbres de ce monde et Dieu le Créateur. Quand ce que Dieu a dit de faire, vous rejetez ça, il n'y a rien que vous puissiez faire qui ne vous ait pas été suggéré par Satan. C'est Satan ou Dieu, il n'y a pas de troisième possibilité dans le monde. Donc, quand Dieu dit, dans tel cas, fais ci, dans tel cas, ne fais pas ça, ou vous le prenez au mot, vous obéissez sans réfléchir, ou si vous vous autorisez à commencer à réfléchir, c'est-à-dire quand vous vous autorisez à commencer à analyser si c'est bien ou mal, vous venez de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en quoi c'est un crime que de le manger? C'est un crime que de réfléchir à voir si Dieu a eu raison ou tort alors qu'il vous a dit de le faire. Comment vous, petit insignifiant, avec votre petite tête qu'il a fabriquée, qui ne connaît rien, qui n'a même pas 50 ans de vie, vous voulez regarder si Dieu, le Créateur de toutes choses, qui existe depuis l'éternité, qui existera pour toujours, qui vous êtes pour réfléchir à ce que lui l'a dit bon? Comme on le dit enfant, ton père te parle, tu dis que tu vas demander la vie de ton grand-père. Bon, c'est vrai que des fois ça se justifie, mais quand ton grand-père c'est Dieu, c'est pas la peine. Je ne sais pas si vous me suivez. Et la Bible nous dit que quand ils ont fait ça, quand Adam et Ève ont mangé de ce fruit, c'est-à-dire que quand ils ont commencé à réfléchir aux ordres que Dieu leur avait donnés et à réfléchir aux suggestions que Satan leur faisait pour voir qui a raison, leurs intelligences se sont ouvertes. Vous voyez, dans la Bible, le mot intelligence est mis au rang des conséquences du péché, pas au rang des vertus. Oui, plus tard, la Bible nous parlera de l'intelligence, sa faculté de réfléchir, de discerner Dieu d'accord. Mais dans le sens où les hommes parlent du mot intelligence, ce n'est que le fruit du péché. C'est-à-dire le fait d'utiliser leur petit cerveau pour discuter, éprouver, analyser, évaluer ce que Dieu a dit. Et décider si Dieu dit vrai ou si c'est Satan qui dit vrai. Comme Dieu ne va pas se fatiguer à vous convaincre, et que Satan lui est là pour ça, chaque fois que vous réfléchissez à un ordre de Dieu, vous invitez Satan à vous convaincre. Et en règle générale, il est plus vieux que vous, hein, quand même, il en a tenté des gens depuis des millénaires. Il va vous convaincre. Et vous allez donc tomber dans le piège de désobéir à Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Vous allez vous découvrir nu. Le monde aujourd'hui est nu. Les grands économistes, les grands politologues, les grands spécialistes de tout et rien, vous ne voyez pas que tous les jours, ils sont de plus en plus nus? On les prend pour qui ils ne sont pas. Mais dès qu'ils rentrent sur le chemin de l'intelligence des grandes théories, le monde découvre de plus en plus qu'ils sont nus. C'est-à-dire qu'ils bavardaient pour rien, ils ne maîtrisent rien. Regardez l'Europe, regardez les Américains. Les gens bavardent. Mais dès qu'ils désobéissent, ils sont nus. Et tout le monde voit qu'il n'y a rien là. Là, par exemple, l'université est nue. Je viens de vous montrer sa nudité. On peut porter 10 toges, on peut avoir sans agrégation. Je refuse qu'on me dise que c'est sage de dire que quelque chose est vrai et faux à la fois. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Il faut dire qu'on ne sait pas. Ou bien je me trompe. Je ne sais pas. C'est tellement simple que je me demande si c'est moi qui suis bizarre. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand vous connaissez la sagesse de Dieu, il n'y a rien qui soit son contraire. Vous ne verrez rien. Je vous mets au défi de me trouver dans la Bible quelque chose qui contredit autre chose dedans. Regardez le nombre de livres qu'il y a dans la Bible. Ça doit être 69 livres, je crois. 66 plutôt. 66 livres. Écrits sur 6000 années. Pas une quarantaine d'auteurs qui ne se sont jamais croisés pour certains. Entre Moïse et Jésus, ou les gens comme Paul, il s'est écoulé des millénaires. Le monde n'était même pas dans la même configuration. Il n'y a pas deux de leurs phrases qui se contredisent. Ils s'expliquent, se complètent, et la suite révèle ce qui s'est passé. Comment c'est possible si on doit faire des thèses d'antithèse? Vous avez jamais vu une thèse d'antithèse dans la Bible? La Bible affirme la vérité. Vous tournerez, vous ne verrez pas d'antithèse. La Bible a cité des villes. Les historiens ont dit que ces villes n'ont jamais existé. Il y a quelques années, aujourd'hui, ils découvrent tout cela, prouvent que ces villes existent. La Bible dit que la mer Rouge est ouverte. Ils ont dit que c'est impossible. Aujourd'hui, ils expliquent même comment ça a fait pour s'ouvrir. Tout ce qu'ils ont dit impossible, ça accomplit. On a dit que Jésus donne son sang aux gens et dit que c'est impossible. Comment c'est possible? Est-ce qu'il est donneur universel? Comme par hasard, ils ont découvert le sujet, ils ont fait le sondage, ils ont vu au plus donneur universel. Ils ont été obligés de se taire. Prenez les musulmans, allez sur le site du club Jésus pour Jésus. Vous allez voir, il y a une série de sourates qui défendent encore mieux Jésus que même les catholiques et les chrétiens. Il n'y a rien à faire. Vous allez dans les groupes ésotériques, ils ne peuvent pas dire deux mots sans dire Jésus. Ils vont l'appeler maître avec plein de niaiseries comme ça. Mais ils tournent tout le temps qu'on fait ça, qu'il est Seigneur. C'est écrit, il n'y a rien à faire pour que la vérité ne s'accomplisse pas. Et rien ne se contredit. Il n'y a pas des vérités dans la Bible. Il y a la vérité. La vérité est une. Ce qui est vrai, c'est ce qui est. Deux choses contradictoires ne peuvent pas être. Ou alors, c'est qu'il n'y a rien. Le monde, parce qu'il ne sait pas ce qui est, s'amuse, entre à gauche, à droite, et essaie de baratiner les gens avec un peu de sophisme. Dès qu'on arrive à donner un peu de logique à une idée fausse, on l'établit au rang des vérités. Quelqu'un d'autre donne un peu de logique à une autre idée fausse, il l'établit au rang des vérités. Et même s'il y a 10 vérités contradictoires sur le même sujet, c'est pas grave, on appelle ça des courants de pensée. Ça, c'est des courants de pensée, il ne peut pas avoir de courants de vérité. La sagesse, c'est de revenir à la vérité, de laisser les courants de pensée. Les courants de pensée ne sont que le fruit de la masturbation intellectuelle des hommes. Et comme nous le dit la parole de Dieu, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. C'est ça qui arrive dans le monde aujourd'hui. La plupart des choses que l'homme a planifiées, comme stratégie, comme théorie, en se disant « ça va nous sauver », ça n'a amené que la mort. Prenez les bêtises comme les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme. Regardez l'histoire. Il y a eu plus de maltraitance de l'homme, plus de crimes contre l'humanité depuis que les droits de l'homme ont été proclamés qu'avant. Il n'y a jamais eu autant de dictatures que sous la démocratie. C'est des foutaises, la science des hommes. La démocratie, par exemple, c'est un système diabolique. Et je vais vous en donner une autre illustration. Qu'est-ce que dit la démocratie? La démocratie dit que la majorité a toujours raison, que la majorité doit décider, que la majorité doit gouverner. Cela veut dire quoi? Si nous sommes dans une maison, je suis papa, j'ai mon épouse, nous avons 10 enfants, pour prendre chaque décision, que le garçon ait 1 an, l'autre 2 ans, 3 ans, bref, je dois faire un vote. La majorité doit l'emporter. Donc systématiquement dans ma maison, c'est mes enfants qui décident ce qui se passera. Qu'ils aient 1 an, 2 ans, 3 ans ou 100 ans, si nous devons voter, le père de famille ne va jamais diriger sa maison. C'est les enfants qui vont toujours être majoritaires pour former la décision. Si je me trompe, vous me dites. Hein? Apparemment, la démocratie oublie ça. Mais quand vous prenez nos pays, écoutez, regardez le taux d'alphabétisation. Il est évident que quand vous prenez un groupe, d'après la loi de Pareto, qui dit que 20% des choses sont toujours de qualité, font l'essentiel, 80% c'est le superflu. Quand vous prenez n'importe quel peuple, 80% des gens sont en bas. 20% forment ce qu'on appelle l'élite. Mais pas la démocratie. L'élite est forcément minoritaire, puisque la majorité sera toujours le peuple. Donc, par la démocratie, un peuple ne peut être dirigé que par le choix des gens les plus bêtes. Je ne sais pas si vous voyez le système. Un paysan de Tchoumitoumi, qui ne sait même pas ce qu'on appelle une ampoule, a le même suffrage que quelqu'un qui a vu le monde entier, qui a été à l'école. Un enfant de 18 ans qui découvre à peine ce qu'est la vie a le même suffrage qu'un vieux de 70 ans qui en a déjà vu, qui sait d'où vient le pays, où il va, comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Cela veut dire que dans la démocratie, les gens les plus mauvais, pas parce qu'ils sont mauvais, mais en termes de proportion, les gens les plus mauvais vont forcément imposer le chef. Or, nous savons bien que les gens ne choisissent que ceux qui leur ressemblent. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on apprend en sociologie ou bien. L'élite qui est choisie n'est pas une vraie élite, on le voit tous les jours. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un habit de chef qu'il est mendiomain. Je parle des mendiomains et des nyambis. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une fonction officielle qu'il est quelqu'un. Regardez bien dans notre pays, je ne veux pas citer de nom. Regardez bien en Afrique. Les gens que vous appelez l'élite, moi je connais des. Je ne veux pas tout dire, mais franchement, mais quand vous regardez ce qu'on appelle l'élite, avouez qu'il ressemble plus au bas peuple qu'à l'élite. Est-ce qu'un diplômé fait une élite? Ils sont tous en train de faire des millions. Ils sont élites de quoi? Quand vous voyez leur comportement en train de se battre, en train de manger l'arachide, en train de manger Gwakwete pour 25 francs, en sortant de certaines institutions, ça c'est l'élite. Vous n'avez pas compris que le problème, c'est que ce qu'on appelle l'élite, ce n'est qu'une partie du bas peuple. La vraie élite est fâchée, s'occupe de ses affaires, voyage, chemin à l'extérieur en laissant les autres faire. Et quand la vraie élite arrive par hasard au pouvoir, elle ne peut pas rester. Au prochain suffrage, elle bougera. Ce n'est pas seulement au Bénin. Regardez en France, regardez dans les grands pays. Parce que l'élite sera toujours minoritaire. On ne peut pas être de l'élite et de la majorité. La majorité vote pour ceux qui s'appellent l'élite tout en étant d'elle. regardez bien, ceux qui se comportent comme elle. Vous prenez des gens comme le président Zessou. Ils étaient trop élites pour diriger un peuple comme le nôtre. Vous prenez le président Soglo, c'est pareil. Vous prenez en France certains hommes politiques, regardez bien dans l'histoire. Dès que quelqu'un est trop brillant, il ne peut pas faire de la politique, à moins d'être un dictateur. Parce que la majorité le rejette. Normal, puisqu'il ne ressemble pas à la majorité. La preuve, écoutez, même Jésus, pendant longtemps, ils ont voulu le tuer, Dieu n'a pas permis. Mais quand l'heure a sonné, il a cessé que Dieu dise l'heure a sonné, il n'a pas fallu deux jours pour qu'il le tue. Qui a tué Jésus? La majorité. Qui a tué Moïse? Si ce n'est pas que Dieu intervenait chaque fois, puis la terre s'ouvrait, engloutissait les gens. Regardez comment la majorité, chaque fois, faisait rébellion pour faire tomber Moïse, en choisissant de l'heure. La majorité est toujours, en tout cas, moins intelligente que la minorité. Mais la démocratie consacre le pouvoir de la majorité. Donc, la démocratie condamne les peuples à être nivelés par le bas. Je ne veux pas réfléchir à des systèmes. Je veux revenir à la vérité. Le problème, c'est que, écoutez, on ne prend pas une machine, on essaie de la faire marcher, elle ne marche pas, et on dit, maintenant, quel système on va faire pour le faire marcher? Si quelqu'un d'intelligent est là, il va dire, mais pourquoi vous ne demandez pas l'avis de celui qui a fabriqué la machine? Tout appareil que vous prenez, tout produit que vous avez vient avec un mode d'emploi. Si ce n'est pas encore comme chez nous en Afrique, on prend un médicament, le gars passe à notice, on boit comme on veut. On prend une voiture, on n'ouvre jamais son manuel, on donne au mécanicien, il court-circuite tout, il casse tout, il connecte tout sans jamais regarder le plan. Ça c'est. Et comment nos voitures se terminent? Des voitures faites pour fonctionner 20 ans sans problème. Au bout de 6 mois, vous êtes obligé de les garer, ils vont te déprogrammer ton calculateur, qu'on sait pourquoi. Vous, quel mécanicien vous avez vu au Bénin qui a demandé jamais le manuel d'un véhicule pour regarder dedans? Ils ne sont pas insuffisants. Ils ne sont pas nombreux. Et même quand ils ont des ordinateurs, la plupart des propriétaires ne veulent pas payer les 15 000 francs qu'il faut pour faire le scanner et tout, parce que c'est déjà trop cher. Mais ils préfèrent se mécaniser, chocler sa voiture, jusqu'à bouger la voiture. Donc, quand quelqu'un fabrique un produit, personne ne peut mieux connaître son produit que lui-même. C'est celui qui a fabriqué son produit, ou à plus forte raison, un système qui a un ensemble de produits, qui est le plus compétent pour dire comment chaque chose se comporte dedans, comment chaque chose marche, comment faire marcher les choses, et en cas de problème, quoi faire. On ne peut pas prendre un ordinateur qui a des problèmes, et demander à l'ordinateur de se réparer, ou à une des pièces de l'ordinateur de réparer l'ordinateur. Hein, d'accord? La solution, quand il y a un problème dans un système, c'est de retourner au concepteur du système. Et donc de retourner au mode d'emploi, au guide d'utilisation qu'il a laissé sur son système. Le monde ne fonctionne plus. Ça ne tourne plus. Tout bug, tout est coincé, tout est en panne. Pourquoi on ne peut pas retourner à celui qui a fabriqué son monde pour lui demander comment il avait prévu que ça marche et comment réparer ce qui ne marche pas? Je vous donne un exemple. On parle de maladie. On dit aux gens que Dieu peut les guérir, ça leur paraît bizarre. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui dit, bon, elle est stérile, on lui a fait une opération, on lui a fait une ablation. Et je connais un cas comme ça, hein, à une église à Cotonou, ici à Jéricho, où une dame a été opérée, on lui a fait une ablation de l'utérus. Mais elle est tombée enceinte. Les médecins ne comprenaient rien, son utérus avait repoussé. Alors vous ouvrez les yeux. Les différents organes de votre corps qui sont là, qui les a fait pousser? Vous n'avez jamais vu l'évolution d'un bébé dans le ventre de sa maman? Ça part d'un spermatozoïde invisible à l'œil nu. Ça devient une masse de chair, ça se ramifie et Dieu fabrique un à un, il fait pousser comme une plante chaque organe. Maintenant, pourquoi quand celui qui a fait pousser tout le corps, fait repousser même pas 1% du corps, on ouvre les yeux? C'est ça la question. C'est ça qu'il faudra m'expliquer. Pourquoi le Dieu qui a fabriqué ma main, elle est devenue comme ça? Si ma main se coupe, on ne peut pas la faire repousser. C'est le docteur qui m'avait créé ma main. Quand on se blesse, la peau, Dieu dit, quand il y a un problème, je répare. Vous ne voyez pas que le corps est une machine conçue pour s'auto-réparer? On mue, on change de cheveux, on change donc. Mais Dieu a mis le corps dans une synchronisation parfaite. Les médecins font de la description. Ils ne peuvent rien faire sur le corps. Quand ça les dépasse, ils disent, bon, ça là, on n'a qu'à couper. Ils font comme les mécaniciens. Quand on dit ablation du sein, ablation des amygdales et consorts, c'est quoi? C'est comme les mécaniciens. Ton véhicule a un problème d'ABS. L'ABS, c'est un système qu'on installe sur les véhicules, non pas pour freiner, il y a le freinage, mais pour freiner de manière électronique. Parce que dans un véhicule qui n'a pas d'ABS, quand vous freinez brutalement, la voiture est secouée, parfois les gens peuvent se cogner la tête, on sent qu'il y a beaucoup de turbulence. Quand vous avez un bon système d'ABS sur votre voiture, l'ABS calcule le freinage de manière électronique, vous pouvez freiner très brutalement. Là où sur un véhicule qui n'a pas d'ABS, il faudrait peut-être 100 mètres pour s'arrêter, vous pouvez vous arrêter en 20 mètres. Et en plus sans violence, sans secousse. Mais moi j'ai déjà vu, et c'est comme ça les mécaniciens dans notre pays. Quand ça signe l'ABS, ils essaient de réparer ça, ne marche pas, ils disent, patron, on n'a qu'à couper. Mais pourquoi on va couper? Ça ne fait rien, regarde, j'ai coupé, mais tu arrives encore à freiner, la voiture freine sans problème. Non, ça ne fait rien, on n'a qu'à couper. C'est comme ça ils font, non? Quand même votre moto, vous allez amener, il y a une pièce. Il tourne, ne peut pas réparer, il va dire, mais il supprime le combo, à moyen, ça démarre, ça tourne à gauche, ça tourne à droite, ouais, le problème, on n'a qu'à supprimer. C'est comme ça ils font. Parce qu'ils sont tellement incompétents qu'ils ne savent même pas à quoi ça sert jusqu'à chercher à réparer. Sur le coup, vous ne voyez pas à quoi ça sert, ils vous le suppriment. Mais vous allez vous rendre compte plus tard que celui qui l'a mis là et qui a fabriqué sa moto, sa voiture, il n'a pas mis là par hasard. Donc vous enlève par exemple les amygdales parce que vous avez des angines. Après on vous dira, tu n'aurais jamais dû parce que Dieu avait mis ça là, ça bloque beaucoup d'infections. quand tu n'as plus d'amygdale, tu deviens sujet à des infections, tu es plus sensible à plein de virus et consorts. Donc, les médecins, quand ils sont incompétents, quand ils ne comprennent pas ce que Dieu a fabriqué, il faut laisser les gens se débrouiller avec Dieu. Ils disent, bon, ce n'est pas grave, ça ne fait rien, viens, on va couper. Demandez à Yafet, quand on va au bloc opératoire, ils prennent tout le vis, ils prennent marteau, ils prennent scie, c'est comme ça qu'ils font, non? Ils travaillent le corps humain comme si c'était du bois. On perce des choses, on met des connexions, on met des enjoliveurs. Vous n'avez jamais vu une opération? Ils font du jonglage. Et vous trouvez qu'il est plus logique de leur faire confiance pour jongler sur votre corps que de dire, mais attendez docteur, celui qui a fabriqué tout ça là, et j'étais né petit comme ça, et je suis devenu comme ça là, s'il ne peut rien faire, vous ne pouvez rien faire? Ou bien, qu'est-ce ici? Parce que tu crois que si Dieu ne veut pas que tu vives d'une minute de plus, le médecin peut te prolonger ta vie? Parce qu'il t'a charcuté, découpé, oui, pour qu'on vous charcute les organes qu'il a mis dans votre corps. Je n'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Mais je dis qu'un médecin n'est pas compétent pour me dire qu'un problème n'a pas de solution. Quand quelqu'un est hypertendu, on dit oui, tu vas avoir ça à vie. Mais c'est faux. Tu as Satan que ceux qui créent l'hypertension là, la colère, l'impatience, le fait d'être rancunier. Mais c'est que ça ne peut pas le traiter par un médicament. Donc comme ils ne peuvent pas traiter les problèmes de mauvais caractère, les problèmes d'impatience, les problèmes sociaux, les problèmes de désobéissance à Dieu qui crée l'hypertension, on dit continue de vivre comme tu veux, on va te mettre des médicaments pour endormir ton cœur. Bon, quand finalement le corps dort trop, il finit par te lâcher, bon, là tu meurs des crises cardiaques, bon, on t'a maintenu le temps que possible. La vérité c'est que Dieu a dit, garde ton cœur en joie, c'est de là que coule la source de la vie. Ça c'est la vérité, c'est ça la sagesse. Dieu a dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est toi, tu dois faire de grandes choses pour moi. Dieu dit que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout est éphémère. Dieu dit, attention, la tristesse est une carie pour les os. Dieu a dit tellement de fois, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Si tu lui obéis, tu ne peux même jamais avoir l'hypertension jusqu'à avoir besoin du médecin. Il dit, soyez lent à parler. Lent à vous mettre en colère. Prompt à écouter. Pardonnez 7 fois, 77 fois. Ne gardez pas la rancune. Ne dormez pas sur une colère. Personne ne peut obéir à ça et avoir de l'hypertension. Ce n'est pas possible. Je vous mets au défi de me trouver un hypertendu qui obéit à la parole de Dieu. Sur le stress, sur la colère, sur l'énervement. Ça n'existe pas. Vous trouvez n'importe quel hypertendu, citez-lui la chose que j'ai dit. Il a dit, comment tu sais? C'est écrit. Pour guérir l'hypertension, il faut laisser le médecin tranquille. Ils n'y connaissent rien. Et il faut changer sa manière de gérer ses émotions. Comme il n'y a pas de médicament pour changer sa manière de gérer les émotions, on vous dit que tu as la maladie à vie. Mais la vérité, c'est qu'avec Dieu, tu peux changer son comportement, ta maladie disparaît. La maladie n'est que le fruit de quelque chose. Quand elle ne voit pas les liens de cause à effet, ils disent, bon, on ne sait pas pourquoi vous avez des cancers, on ne sait pas pourquoi vous avez l'hypertension, on ne sait pas pourquoi vous avez le diabète. Donc, nous, on va faire en sorte que, bon, pourquoi il y a plein de gens à Diaco? La folie est une maladie spirituelle. Quand Jésus voulait guérir le fou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les mauvais esprits. Il y avait une légion de mauvais esprits. Tout fou est possédé par une légion de mauvais esprits. Il n'y a pas de médicament pour chasser les esprits. Si vous connaissez un fou, vous allez voir comment on les traite. On les drogue pour que leur corps soit tout le temps amorphe, incapable d'exprimer les pulsions que leur cerveau possédé va faire. Regardez bien, la plupart des gens qui sont fous, on ne les soigne jamais. On les drogue pour que la société ne voit pas que ça tourne rond. Dans la Bible, avant que Jésus vienne le délivrer, on l'avait enchaîné. C'est tout ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin toujours des chaînes. Quand ils arrivent, on leur met des chaînes et on met les médicaments qui les enchaînent, s'enchaînent. Quand ils ont bien amorphes, on peut enlever les chaînes, ils sont là comme des moutons. On dit bon, il est là, en tout cas, il n'a plus rien cassé depuis. Mais il n'est pas guéri, les mauvais esprits sont toujours là. Ça revient. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de solution. Vous allez voir que la folie fait partie des maladies que même les Benoîts conviennent qu'on traite mieux en indigénat qu'à l'hôpital. Parce que moi, l'indigénat joue un peu sur le spirituel. Mais quelqu'un est fou, il a besoin d'être délivré des mauvais esprits qu'il y a là. Et si quelqu'un est un chrétien en communication avec le Saint-Esprit, guérit un fou, c'est une autorité que nous avons. Donc, Dieu a tout dit, hein. La vraie sagesse paraît folle aux hommes. De la même manière que ce que l'homme appelle l'intelligence, Dieu en rit, c'est de la foutaise. Tout le problème est là. Vous verrez que si vous avez des problèmes, c'est parce que vous essayez désespérément d'appliquer la sagesse humaine. On vous l'a appris à l'école. On vous a par exemple appris à l'école, indirectement, que tout ce qu'on ne voit pas n'est pas vrai. Nous croyons tous que quand on ne peut pas voir quelque chose, c'est que ce n'est pas vrai. Ou bien, oui, quand on te dit que tu as quelque chose, tu ne vois pas, tu ne crois pas. Qui nous a appris ça? Que si on ne voit pas quelque chose, ce n'est pas vrai. C'est l'école. Mais beaucoup de nos problèmes viennent du fait que nous ne savons pas croire ce que nous n'avons pas vu. Si vous mettez des enfants à l'école, allez apprendre à croire à l'invisible, ils ne se comporteront pas comme vous et moi. Et pourtant, il y a plein d'incohérences. Est-ce que quand j'allume un appareil avec une télécommande, vous voyez ce qui se passe entre la télécommande et la télé? Vos téléphones portables. Mais le monde aujourd'hui est un monde invisible. Mais on a déjà appris à l'école que tout ce qui n'est pas invisible n'est pas vrai. Avec tout ce qu'on fait aujourd'hui d'invisible, pourquoi on ne doit pas croire aux esprits? Parce qu'on ne l'a pas appris à l'école. Et parce que nous avons été formatés à l'école pour ne croire que ce qui vient de l'école, c'est-à-dire pour ne croire que le faux. C'est pour ça que je rêve de bâtir un système éducatif qui sauve les enfants de la bêtise du monde dès la maternelle. On nous formate. Vous prenez un enfant. Quand il est malade, on lui apprend à demander un médicament au lieu de lui apprendre à demander à Dieu d'intervenir. Moi, j'ai fait des expériences avec mes petites filles. Bon, aujourd'hui, elles sont un peu grandes, 8 ans, 6 ans. Mais je leur ai appris à faire la maladie, à chasser la maladie. Et je leur ai regardé dans vos dessins animés. Il y a plein de mots magiques, il y a plein de super-héros qui ont des pouvoirs avec des mots magiques pour faire des choses. Et moi, je vais vous apprendre le vrai mot magique. C'est Jésus. Et moi, j'ai déjà vu mes filles se blesser, avoir des maux de tête, avoir des maux de toute forme. Quand elle m'appelle, Audrey, pas compliqué. Tu le chasses au nom de Jésus, tu me rappelles. Elle te rappelle de me dire, youpi, papa a fait marcher, il a foutu le camp. Jésus est puissant. Je dis, ah, n'oublie pas de lui dire merci. Parce que il a guéri comme ça des lépreux. Ils sont tous partis sauf un. Il veut qu'on lui dise merci. Mais si vous faites ça avec un enfant pendant 10 ans, quand il est malade, il ne pense même pas au médecin. Il a grandi en apprenant et en expérimentant. Moi, ça fait des années que je n'ai pas pris de médicaments pour les maux de tête et pour les maux de ventre. Avant, je prenais, j'avais tout dans mes affaires, Aérus, j'en avais au bureau, dans mon sac, des médicaments pour l'allergie. À un moment, je me suis dit, j'ai pu, merde, ça suffit maintenant. Si Dieu ne règle pas mon allergie, je m'en fous, que ça n'a qu'à continuer. Aujourd'hui, j'ai découvert la dernière fois dans un de mes cartons plein d'Aérus. Mon épouse et moi, on n'a rien dit, mais si on me disait qu'aujourd'hui, j'allais avoir des Aérus, pas savoir quoi en faire. Mais oui, je n'ai plus d'allergie. Pourtant, à un moment, je ne pouvais pas passer 2 jours sans boire Aérus. La question, c'est, est-ce que vous êtes capable de dire, je prends Dieu au mot. Le monde est là, avec son système, avec ses théories, avec ses lois. Malade, hôpital, hôpital, médicament. Dieu dit, si l'un d'entre vous est malade, qu'il aille voir les enfants, qu'il lui impose les mains, et il guérira. Qui dit la vérité? C'est la seule question à laquelle vous avez à répondre. Il dit à la croix, je me suis déjà chargé de vos maladies. Je les ai amenés dans la tombe. Il n'y a plus de maladie qui ait le droit sur vous. Si vous êtes malade, c'est que vous le voulez. Est-ce que Jésus ment? C'est la seule question à laquelle il faut répondre. Et il vous en sera toujours fait selon votre foi. Est-ce que vous êtes tellement formaté dans le système du monde que vous dites, c'est trop beau pour être vrai. On parle des choses sérieuses, je dis que je suis malade, toi tu me dis Jésus. Jésus a dit d'aller à l'hôpital. Oui, Jésus n'a pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Mais il dit, en effet, selon ta foi. Il y a des gens qui ont vu Jésus, il a dû leur dire, prends la boue, mets sur tes yeux, va te laver. D'autres l'ont touché. D'autres, il est parti les ouvrir. Mais il y a des gens qui ont dit, c'est même pas la peine de te balader. Dis seulement un mot. Mon serviteur guérira là-bas. À chacun, il en a été donné selon sa foi. Si quelqu'un a un niveau de foi où il a besoin qu'on lui mette la boue sous les yeux, qu'on lui demande d'aller se laver dans de l'eau, pour sentir qu'il y a un miracle, Jésus lui donne. Mais il y a des fois, il veut aller faire un miracle. Le gars dit, pourquoi tu te fatigues? Je sais que tu es Dieu. Il n'y a pas besoin de te déplacer. Dis ici un mot. Il va guérir là-bas. Et il a guéri là-bas. C'est ça le pouvoir de la foi. Dieu donne à chacun selon ce qu'il est capable de croire. Si vous croyez que Dieu peut vous donner 10 000 par jour, il vous donnera 10 000 par jour. Si vous croyez qu'il peut vous donner 1 milliard par jour, il vous donnera 1 milliard par jour. La question c'est, quelle est la dose de votre foi? Dieu dit, amenez vos paniers, je les remplis. Vous amenez des petits paniers, il va servir les petits paniers. Vous amenez des cargos, il va servir les cargos. C'est votre foi qui détermine ce que vous recevez de Dieu. Et la foi, c'est quoi? C'est de connaître la vérité et de s'accrocher à la vérité, de refuser de lâcher la vérité, quoi que la réalité prétende. Et c'est là où j'introduis le mot de réalité ici. La réalité, c'est quoi? C'est ce que vous percevez. Vérité n'est pas réalité. La réalité, c'est ce que vos sens perçoivent. Vos yeux, vos oreilles, le toucher, l'odorat, l'ouïe, ça, c'est chose que vous percevez, que vous appelez souvent la vérité. Ah, j'ai vu de la fumée, ça veut dire qu'il y a du feu. C'est faux. Tu as vu de la fumée. Il y a une réalité, c'est qu'il y a de la fumée. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a du feu. Même dit, mais comment ça? S'il n'y a pas de feu, comment il va y avoir la fumée? Si je prends un fumigène pour le spectacle, je te mets de la fumée sans qu'il y ait du feu. Donc ce n'est pas vrai que fumée veut dire feu. La réalité, c'est qu'il y a la fumée, mais la vérité, c'est pas qu'il y a du feu. Oui, les apparences sont trompeuses. Je montre, si je vais dans un village où ils n'ont jamais vu de télé, je prends un de leurs enfants qui est en ville, je le paye en tant qu'acteur, il tourne un film dans lequel on le tue en tant qu'acteur, jamais le film au village, ils vont faire son enterrement, ils vont faire son deuil, ils vont faire toutes les cérémonies, parce que pour eux, il est impossible de voir leur fils en train de mourir avec du sang en train d'être enterré et qu'il ne soit pas vraiment mort, parce qu'ils n'ont pas le niveau de connaissance pour savoir que même ça, là, on peut faire ça en misant. On est d'accord? La réalité n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que je vois quelqu'un mourir à la télé qu'il est mort. Ou bien, je vois des femmes, par exemple, parfois regarder les feuilletons là et pleurer pendant les feuilletons. Moi, ça me fait rire. Pourquoi vous pleurez pendant les feuilletons? C'est de la mise en scène. Vous avez vu des femmes pleurer ou être tristes parce que l'actrice principale est en danger d'un film? Ou bien, c'est la mise en. C'est ça tout le problème de l'homme, d'être capable de croire à la mise en au point de pleurer. Et puis le cœur bat. Comment vous faites? Mais c'est la mise en, les gens sont en train de jouer. Mais le problème, c'est que vous vous dites tellement ça que vous oubliez que ça a été fait. Oui! C'est-à-dire, je donne cet exemple simplement pour vous montrer la stratégie de Satan. Nous sommes bientôt maîtres du monde. Dieu nous a donné tout pouvoir sur la terre. Presque rien ne peut arriver à l'homme sur la terre sans son concours, sans son autorisation, en tant que béton. Mais l'autorisation de l'homme lui est souvent volée par Satan. C'est comme, et ça arrive encore dans nos pays, vous êtes président. On ne peut pas enfermer quelqu'un sans votre signature. D'accord? Regardez par exemple l'histoire de Darius avec, comment il s'appelle, Daniel. On ne peut pas chercher à tuer Daniel sans l'avis de Darius. Comment on s'y est pris pour que Darius soit obligé d'ordonner de tuer Daniel? En le manipulant. Le résultat est le même. Daniel a bien dû autoriser la mort de Daniel. Mais personne ne pouvait tuer Daniel sans que Darius l'autorise. D'accord? Si vous êtes président de la République, on sait que votre plus proche collaborateur, celui qui vous est utile, tant qu'il est là, on ne peut rien vous faire. Si vous ne décidez pas de le limoger, personne ne peut le limoger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui tendre des pièges, ils vont essayer de le corrompre, ils vont essayer de le faire parler contre vous, ils vont le mettre dans des situations pour essayer d'avoir des preuves, ou même parfois ils vont inventer des choses pour que vous lui en vouliez. Quand ils vont vous présenter les preuves une fois, deux fois, trois fois qu'il combat contre vous, même si ce n'est que de la mise en scène, vous finirez par le virer. Vous l'aurez viré, vous serez vous-même exposé, vos adversaires vont pouvoir vous casser. Ils ne l'ont pas fait virer pour lui, ils s'en foutent. Ils l'ont fait virer pour vous affaiblir. Mais ils ne peuvent pas vous affaiblir sans votre signature. On obtient votre signature en montant un complot en vous disant qu'il veut vous tuer. Le résultat est le même. Que ce soit de bonne foi ou de mauvaise foi, vous virez celui qui vous protégeait. Vous vous êtes livré. Et c'est comme ça que ça marche en politique. C'est pareil. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'un des grands secrets de la sagesse de Dieu, on va répondre aux questions tout à l'heure, la Bible contient effectivement la sagesse de Dieu, mais pas toute la sagesse de Dieu. Cette question-là est importante, ou plutôt cet aspect, toutes les choses que l'homme peut savoir. Dieu nous dit, à Dieu les choses cachées, aux hommes les choses révélées. Dieu ne révèle pas tout à tout le monde tout le temps. Il révèle ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Donc personne ne peut prétendre qu'être sage, c'est savoir tout ce qu'il y a à savoir. Vous seriez alors Dieu. Dieu seul sait tout ce qu'il y a à savoir. Mais il y a des choses qui sont la vérité révélée par écrit de Dieu. Dieu a donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mode d'emploi, un guide d'utilisateur global qui traite globalement de la plupart des questions ou des choses que Dieu estime que tout le monde devrait avoir. La Bible est la parole de Dieu révélée par écrit pour régir globalement le monde, l'humanité, les hommes. C'est la première constituante de la sagesse de la vérité. Bien évidemment, tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai et fait partie intégrante de la sagesse de Dieu. Ça fait partie des choses, des connaissances justes à avoir. Et ça nous donne des connaissances aussi bien sur l'homme que sur les choses divines. Donc, la parole révélée par écrit de Dieu, la Bible, est une des premières composantes de la sagesse. Il est impossible de connaître, non pas d'avoir lié à des gens qui lisent la Bible par cœur 10 fois, ce n'est pas de ça qu'on parle, mais il est impossible de comprendre la Bible et de ne pas être parfaitement sage. Celui qui arrivera à comprendre toute la Bible, je ne dis pas à lire, à comprendre toute la Bible sera probablement l'homme le plus sage du monde. Mais bien malin celui qui arrivera. Quand vous prenez une page de la Bible, vous pouvez passer un an sans finir de la comprendre. On en comprend des choses, mais tous les jours on en découvre parce que la parole de Dieu est vivante. La parole vous parle, l'Esprit de Dieu vous parle. Vous lisez la même phrase pendant 10 ans, la 11e année vous la lisez et ça vous révèle des choses que vous n'avez jamais vues pendant 10 ans. Donc, même avec sa parole écrite, on a ce qu'on appelle le logos, c'est ce qui est écrit, et ce qu'on appelle le réma. Vous avez un problème où vous êtes quelque part, vous lisez tous les jours, par exemple, une citation qui est là, et un jour, vous avez l'impression que vous la lisez et ça commence à vous donner une série d'idées. Parce que Dieu utilise sa parole pour vous communiquer des choses plus précises qui ne sont pas là, la parole révélée, pas écrite à tout le monde, mais qui deviennent des paroles révélées personnelles. Par exemple, il y a plein de gens qui sont malades. On a toujours prié pour eux. Ça n'a jamais rien dit. Et puis un jour, par exemple, c'est quelqu'un qui est paralysé. Elle est en train de fouiller la Bible, elle tombe sur « Je puis tout par celui qui me fortifie ». À ce moment, Dieu lui donne une révélation. Et puis elle commence à dire « Mais c'est vrai, je puis tout. En fait, qu'est-ce qui m'en empêche? À moins que Dieu ne soit pas capable. » Puis des idées commencent à s'enchaîner dans sa tête. En fait, Dieu lui parle. Et vous la voyez, elle essaie, elle se lève. C'est-à-dire, elle est tellement galvanisée, tellement armée, tellement équipée par cette parole que ça lui donne une force surhumaine. Cette personne-là se lève. Ça veut dire qu'au-delà de « Je puis tout par celui qui me fortifie », tout le monde lit. À un moment, Dieu peut utiliser ça et déclencher un processus terrible dans l'esprit de quelqu'un. Or, nous savons tous que quand l'esprit passe à la vitesse supérieure, le corps suit. Je vous l'illustre de manière très simple. Si je vous dis, on fait du sport, on fait du footing, on fait de l'échauffement, on fait de la course, vous n'êtes pas nombreux à pouvoir courir très vite. Moi non plus. Mais si je mets un lion ici maintenant, j'ouvre la cage et vous voyez qu'il a faim, je suis sûr que si je mets le chrono, vous allez tous battre les champions béninois de course de vitesse. Ou bien, les gens qui ne peuvent même pas faire de grimper, vous allez les voir passer par-dessus les murs, on se demande comment ils font. Ou bien, même les estropiés. On a vu des hôpitaux où ils ont fait des expériences avec des gens paralysés. Pour faire une expérience psychologique, ils ont mis le feu à l'hôpital et ils ont demandé à toutes les infirmières de fuir. Mais une grosse partie des gens paralysés ont commencé à courir et sont sortis de l'hôpital. Ce n'est pas qu'ils faisaient la comédie, mais face à la mort, leur esprit était tellement décidé à vivre que le corps a été obligé de suivre. Il y a des électrochocs comme ça. Donc, vous ne réalisez pas le pouvoir de notre esprit. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne le peux pas par mon esprit, je ne peux pas par ma force, mais par l'esprit de Dieu, je peux tout. Allez, les hommes ne réalisent pas, bien que des choses comme ça viennent nous le prouver au quotidien, à quel point celui qui a l'esprit de Dieu, qui croit à la parole de Dieu, peut faire des miracles. Donc, vous avez la parole révélée par l'écrit de Dieu. Vous avez les rémas. Là, c'est soit par la parole de Dieu que vous lisez, soit vous êtes là et puis des idées vous arrivent. Le Saint-Esprit parle directement à votre esprit. Vous recevez donc comme ça d'autres révélations. Quand par exemple on parle du don de sagesse, c'est quoi? C'est la capacité que le Saint-Esprit vous donne face à certains problèmes de vous donner directement dans votre esprit des solutions qui ne sont pas le produit de votre réflexion. Vous êtes devant un problème, vous dites comment je vais faire, puis vous dites mais Seigneur, je vais faire quoi? Je n'en peux plus. Et une idée arrive. C'est pas que vous avez une idée. Dieu a répondu à la question, je fais quoi? En te disant quoi fais-tu? Tu dis merde, comment je n'y ai pas pensé? Tu ne pouvais pas y penser. Mais Dieu, sachant tout ce qui s'est passé, sachant tout ce qui est, sachant tout ce qui doit venir, peut te faire la grâce de te donner ponctuellement, parfois fréquemment, parfois rarement, mais Dieu a le pouvoir de décider que là, il décide de faire cadeau d'une proportion de sagesse pour régler un problème. Donc, au-delà de ce qui est écrit, encore que parfois il y a des choses écrites, mais comme on n'arrive jamais à tout lire, moi il y a des choses par exemple que l'Esprit de Dieu m'a dit, et quand j'ai commencé à fouiller dessus, j'ai découvert que c'était écrit. Mais au moment où je l'ai compris, je n'avais jamais lu que c'était écrit. Et personne ne m'en avait jamais parlé. Il y a des fois comme ça, vous êtes là et puis commencez à penser à quelque chose. Et puis vous sentez bien que vous recevez des révélations sur des principes bibliques importants. C'est tellement clair, c'est tellement puissant. Vous dites, mais est-ce que c'est si simple que ça? Parce que quand Dieu vous parle, vous avez l'impression que c'est très puissant, c'est très simple à la fois. Vous dites, mais je rêve ou comment je n'y ai pas pensé? Est-ce que je ne raconte pas de bêtises? Et vous commencez à fouiller, sachant que la parole de Dieu est la constitution. La Bible, c'est toujours la constitution. Dieu ne vous révélera jamais quelque chose qui contredise la constitution, qui viole la constitution. Quand vous croyez avoir reçu une révélation, reçu une sagesse de Dieu, passez-le toujours à l'épreuve de la constitutionnalité, c'est-à-dire à l'épreuve de la Bible. Cherchez pour voir si c'est en cohérence avec la Bible globalement. Et des fois, vous recevez des révélations, vous commencez à fouiller et vous découvrez que ce que vous avez reçu est écrit noir sur blanc dans tel verset. Vous ne le saviez pas, mais l'Esprit de vous l'a révélé. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit la Bible. Il n'a pas besoin de la Bible pour vous redire ce qu'il a écrit. La Bible a été écrite par des auteurs qui en ont reçu l'inspiration par Dieu. Et je n'y croyais pas. Mais j'ai fini par croire ce qu'on appelle l'inspiration. Quand par exemple, moi je fais un séminaire, je ne me prépare jamais. La plupart des choses, là je reviens de Parakou, je me suis réamusé pendant le voyage à écouter certains de mes enseignements. Des fois je me dis, mais comment j'ai pu penser à ça? D'où ça me vient? Je ne savais pas, il y a même des choses que je réécoute. Je dis, ah bon, j'ai dit ça? Il y a des fois, les plus grands trucs que j'ai écrits dans ma vie, moi je me suis mis là, et puis c'est comme si quelqu'un te dicte. Et tu as l'impression que c'est des idées qui viennent. Mais ça vient de manière tellement fluide, tellement cohérente, à une telle rapidité. Tu écris, et quand tu relis, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas toi qui as réfléchi. Et c'est ce qu'on appelle en philosophie la réminiscence. Comment les scientifiques, se demandant pourquoi certaines personnes ont des idées de génie qui viennent de nulle part. Ils disent, bon, certainement que comme nous avons parfois plusieurs vies, certainement que c'est des choses qu'ils ont apprises dans une autre vie et qui leur revient à la mémoire. Bref, ils admettent déjà que ça vient d'ailleurs. À la différence que ça ne vient pas d'une autre vie, ça vient de Dieu. La réminiscence, c'est un aveu de ce qu'on appelle la révélation. L'Esprit de Dieu communique quelque chose à votre esprit. Ça peut être la sagesse en termes de méthode, en termes de vérité, en termes de stratégie, mais parfois c'est aussi la sagesse en termes de quelque chose, une information que vous n'avez pas. Moi, par exemple, ça m'arrive souvent, soit par des rêves, soit par des flashs, tu reçois une information qui t'est utile, mais que tu ne connaissais absolument pas. Ou bien, par exemple, on te pose une affaire, humainement, ça te convainc, et Dieu t'envoie une révélation, te montre quelque chose qui te fait dire, laisse tomber, ça m'intéresse. Regarde, pourquoi tu dis non, je ne sais pas, mais laisse tomber. Parce que Dieu, sachant que tu l'écoutes, sachant que tu es à sa disposition, sachant que tu demandes, Seigneur, donne-moi ta sagesse, t'envoie au moment où tu en as besoin des informations que tu n'aurais nullement ailleurs, que tu ne pourrais avoir d'aucune autre façon si ce n'était par sa révélation. Et le problème, c'est que moi aussi, pendant longtemps, j'ai prié pour répondre à la question de quelqu'un qui disait, mais pourquoi on demande à Dieu la sagesse s'il ne la donne pas? Il y a plusieurs cas de figure. Première chose, moi-même qui suis ici, Pendant longtemps, j'ai demandé à Dieu la sagesse, je continue de la lui demander, en m'attendant à la recevoir, alors que je l'avais déjà reçue. Souvent, vous ne réalisez pas quand vous recevez la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu n'est pas quelque chose qui vient se mettre à côté de vous. La sagesse de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui communique avec votre esprit. Donc, vous êtes face à un problème, et puis dès que le problème se pose, tout le monde est coincé, vous trouvez l'idée. Quand on ne sait pas ça, on pense qu'on est intelligent. Les gens commencent à dire, mais voilà, il est brillant, il est déjà, il a de bonnes idées, il a toujours la réponse à tout. Puis ça devient trop fréquent, vous dites, mais quand même, comment ça se fait? Et le Saint-Esprit vous dit, non, c'est pas toi qui as la réponse à tout. C'est juste que comme tu le demandes tous les jours, je te donne la sagesse. Quand un problème se pose, et moi j'ai atteint ce niveau, je rends grâce à Dieu. J'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais il est rare qu'on me pose un problème pour lequel, que j'y pense ou pas, je n'ai pas la réponse. Il y a des fois, par exemple, vous posez un problème à l'épouse, dit, bon, laisse-moi y penser. Je dis, non, mais c'est simple, il suffit de. Je dis, non, tout le monde n'est pas comme toi. Laisse-moi, moi, il faut que je puisse penser. Au début, je ne comprenais pas. Et j'ai fini par comprendre que quand vous demandez à Dieu sa sagesse, c'est comme si chaque fois qu'un problème se pose, ou par exemple quand j'anime un séminaire, chaque fois que quelqu'un me pose une question, au moment où je décide d'y répondre, que j'ai la réponse avant d'y répondre ou pas, la réponse viendra. Tellement que je ne fais même plus d'efforts. Si quelqu'un me pose une question, quelle qu'elle soit, je vais recevoir la réponse. Ce n'est pas que j'ai la réponse, hein, mais je vais recevoir la réponse pour la lui donner. Et à un moment, ça arrive tellement fréquemment, tellement couramment, que si vous ne savez pas faire, vous allez tomber dans le piège de l'orgueil, croyant que c'est le fruit de votre intelligence, de votre mérite. Mais ce n'est rien d'autre que la réponse de Dieu à votre demande régulière de sagesse. La sagesse, c'est la capacité à connaître des choses justes sur les choses ayant rapport à l'homme. Dans la limite de ce que Dieu veut permettre que vous sachiez, il y a des choses, on ne le sait pas, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais il y a des choses, Dieu vous donne la capacité de les comprendre avec une efficacité, avec un discernement extraordinaire. Ce n'est pas que vous êtes plus brillant que les autres. Mais l'autre chose aussi qui m'est inspirée par cette question, au-delà du fait que je crois que quand on demande la sagesse à Dieu, on la reçoit souvent et on ne se rend pas compte qu'on l'a reçue, on la reçoit et on fait à Dieu l'affront de faire passer la sagesse qu'il a envoyée comme son intelligence. L'autre chose, c'est qu'il a ajouté quelque chose d'important que j'ai compris justement quand il a posé la question. Je n'avais jamais compris avant, je l'ai compris quand il a posé la question. Là où Dieu dit que si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous sans le juger, on ajoute, pour peu qu'il la demande avec la foi. N'est-ce pas? C'est quoi la foi d'après la parole de Dieu? Parce que la Bible est un tout. Il ne faut pas prendre les choses isolées. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, assurance de ce qu'on espère. Deuxième chose, la démonstration de ce qu'on attend. Assurance de ce qu'on espère et démonstration de ce qu'on attend. Cela veut dire quoi? Si je demande à Dieu de me donner la sagesse, par exemple, pour animer un séminaire sur un thème que je n'ai pas préparé, je dois avoir l'assurance en entrant dans la salle que je peux l'animer. Même si ma tête est vide, je ne dois avoir dans mon cœur aucune trace de peur, de stress, d'inquiétude, de tract. Avoir ces choses-là trahit que tout en ayant demandé à Dieu de donner la sagesse, je doute qu'il soit capable de me la donner. Beaucoup de gens pêchent là. Vous demandez à Dieu la sagesse pour régler un problème. Supposons que tu es un informaticien, tu essaies de régler un truc, ou tu es un mathématicien, n'importe quoi, ou tu es dans une composition à l'examen, une épreuve, tu ne comprends rien. Tu pries, dis, Saint, donne-moi la sagesse. Tu ne peux pas dire, donne-moi la sagesse, et continuer de pleurer. En disant, donne-moi la sagesse, tu te remets sur l'épreuve en disant, bon, maintenant je la règle. Et tu commences à, même si c'est, comment dire, regardez, pour la traversée du Jourdain, pour la traversée de la mer Rouge, chaque fois Dieu dit, faites un pas. Ils ne sont pas restés dans le désert, Dieu n'a pas ouvert la mer pendant qu'ils étaient dans le désert, hein. Dieu les a conduits jusqu'au pied de la mer, ne pouvant ni avancer ni reculer avant de l'ouvrir. Pour le Jourdain, il a fallu que les sacrificateurs mettent le pied dans l'eau pour qu'il soit à sec. Ils ne pouvaient pas rester devant l'eau et que l'eau soit à sec. Hein. Il a fallu qu'ils mettent le premier pied dedans. Pour le but de Jéricho, il a fallu qu'ils aillent au pied du mur et qu'ils tournent autour du mur et qu'ils fassent quelque chose qui peut paraître ridicule quand on prend le cul, de crier sur un mur pour voir s'il va tomber. Vous ne pouvez pas être en train de dormir que Dieu fasse un miracle. Vous allez voir que dans la foi, il y a toujours un pas qui est bête, mais un pas à faire. Quand vous le faites, Dieu enclenchera de quoi faire le prochain pas. On dit tout voyage par un pas. Commence par un pas. Regardez Abraham. Dieu dit pas de chez ton père. Dieu ne lui a pas dit oui, va. Hein. Il dit je vais où? Dieu dit pas seulement. Je te dirai où tu iras. Il aurait pu dire ah, non. Si tu me dis pas où on va, moi je ne quitte pas de chez mon père. C'est ce que nous faisons. Tu poses une question à Dieu sur une épreuve. Dieu dit c'est pas compliqué. Commence d'abord à factoriser. Il dit c'est pas ça. Donne-moi la solution. Commence à factoriser. Tu n'auras pas fini de factoriser que tu vas te donner la prochaine idée. Ça veut dire ce que je veux dire. Face au problème. Vous devez avoir, quand vous allez demander la sagesse de Dieu, la ferme assurance qu'il la donnera. Donc, si c'est une inquiétude, n'importe quoi, un stress, comment je vais faire maintenant, je ne pourrai pas rendre compte à mon patron, je ne pourrai pas trouver la solution. Quand vous avez fini de prier, vous devez être sincèrement hors de ce stress-là. Si vous continuez d'avoir peur alors que vous avez prié, c'est que vous n'avez pas la foi. Donc, vous n'êtes pas éligible. Deuxième chose, vous devez le démontrer. Vous avez prié pour que le logiciel démarre. Vous ne pouvez pas rester dans votre chambre en attendant de prier, Seigneur, que le logiciel démarre. Quand tu as fini de prier, maintenant tu te lèves et tu vas allumer l'ordinateur, tu démarres le logiciel, convaincu que ça marchera et que tu vas avancer. Et ça marche. Tu es en train de dormir à 2h30, il faut que je confie ça à Dieu. Tu pries, tu ne dors pas, tu te lèves, tu dis bon, maintenant j'ai fini de prier, Dieu s'en occupe. Allons-y, Seigneur. C'est un peu comme quand il dit à certains prophètes, quand vous allez devant des gens qui vont vous demander de vous expliquer sur moi, ne vous inquiétez pas. Ne vous demandez pas d'avance ce que vous direz. Quand il faudra parler, je mettrai les paroles dans votre bouche. C'est-à-dire, ne dites pas dans ma chambre, on va m'a convoqué au tribunal, qu'est-ce que je vais dire sur Jésus maintenant pour m'expliquer? Non. Va là-bas en souriant. Ne te demande même pas quoi dire. Ne prépare aucun argument. Quand ils vont te poser la question, ce que tu as dit sera dans ta bouche. C'est difficile d'y croire, mais c'est la seule manière de recevoir la sagesse. Moi, j'ai fait cette expérience. Tous les séminaires que je prépare sont mauvais, tellement je n'en prépare plus. Quand je prépare un séminaire, vous allez jamais me voir avec un papier. Quand il y a des thèmes qui sont nouveaux, je me dis, mais quand même, ça là, tu dois préparer un peu. Quand je commence à le préparer, c'est mauvais. Le séminaire devient mauvais. Parce que préparer un séminaire, c'est essayer de se confier en sa préparation. C'est décider de trouver les choses utiles, de se préparer, de s'armer, d'avoir les arguments pour s'en sortir. Quelque chose que vous préparez, vous ne limitez pas la préparation d'une présentation, le Saint-Esprit. Parce que quand on prépare quelque chose, on a tendance à utiliser son temps pour le dire. Alors que le Saint-Esprit a son programme. Il veut que vous parliez certaines choses, parce que lui, il sait qui est là, vous ne le savez pas. Il sait quel problème les gens ont. Il sait qu'est-ce qu'il veut passer comme message à chacun. Si à la fin d'un séminaire comme celui-ci, vous parlez à chacun, chacun va vous faire un témoignage du séminaire qui est différent de l'autre. On ne dira même pas qu'ils sont dans la même salle. Pourquoi? Parce que dans un séminaire comme ça, on se laisse conduire par le Saint-Esprit parle à chacun individuellement à travers le formateur. Lui-même, il ne sait pas tout ce qu'il entend dire à chacun. Mais le Saint-Esprit sait pourquoi il a réservé chaque mois à chacun. Et chacun reçoit sa dose, sans même que le formateur lui-même ne sache quelle dose il a donné à qui. Ça, c'est le boulot du Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas venir avec un plan chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et que le Saint-Esprit vous utilise. Parce qu'en vous préparant, vous ne savez pas la vérité. Vous ne savez pas qui est là. Vous ne savez pas de quoi ils ont besoin. Celui qui le sait, laissez-le vous conduire. Mais ça prend la folie de venir le cerveau vide. Et au début, vous êtes toujours un peu inquiet. Moi, au début, je disais toujours à mon épouse, franchement, tu vois, c'est bien, je n'ai même pas eu le temps de le préparer. À moi, elle a dit, franchement, Edgar, arrête de me fatiguer. Tu dis toujours la même chose. Chaque fois, tu fais toujours des séminaires extraordinaires. Mais il y avait la vie même mieux. Donc, voilà, bah, ce n'est pas la peine de me fatiguer. Parce que, au début, on finit toujours pas. Mais quand même, il faut au moins un peu de préparation. Je ne dois pas en regarder. Sur ce séminaire, sur la sagesse. J'ai plein de livres sur la sagesse. J'en ai même pris un. Je l'ai amené. Je dis, bon, on va quand même donner des exemples. Mais chaque fois que je fais ça, je n'ai jamais l'occasion de toucher ce que j'ai prévu. Parce que le Saint-Esprit, par vos questions, par différentes choses, nous entraîne ailleurs. Donc, il faut se laisser conduire et se laisser conduire la démonstration qu'on attend vraiment que l'Esprit vous conduise. Moi-même, dans le domaine technique, j'ai très, très rarement utilisé la documentation pour former. Quoi que vous ayez à faire en informatique, en médecine, je rêve par exemple du jour où on aura des médecins où avant de toucher un malade, prie et dit « Seigneur, c'est toi qui le guéris, moi je écoute ton instrument, on fait quoi maintenant ?» Le Saint-Esprit peut dire « Chante, il chante » et dit « Rentrez chez vous, vous êtes guéri. » Oui, le Saint-Esprit peut dire « Bon, et c'est ça un médecin. » Moi, quand je vais, les rares fois, je vais chez les médecins. J'y vais en disant, Seigneur, je sais qu'il ne vaut rien, ne peut rien. Bon. Et là, je n'ai pas encore le niveau de foi dans ce domaine-là pour rester à la maison. Mais quand je vais là-bas, là, ce n'est pas lui que je vais voir, c'est toi que je vais voir. Utilise-le. Donne-lui une révélation. Donne-lui un bon diagnostic. Évite qu'il me dise des bêtises. S'il me dit des bêtises, donne-moi le discernement de lui poser la question pour découvrir que c'est des bêtises. Donc, même quand moi, je vais confier ma vie à un homme, je confie sa vie à lui, à Dieu. Donc, dans tous les domaines, et dans quel domaine voulez-vous être et que Dieu ne soit pas? Dieu est créateur de toutes choses. Donc, quel que soit votre domaine, quelle que soit la situation, Dieu sait mieux que tout le monde ce qu'il y a à faire. Et l'autre, c'est là, les gens disent, mais quand même, j'ai un problème concret. Comment je vais appeler Dieu? Il est où? Mais il est là. Dites simplement, Seigneur, je suis perdu. Qu'est-ce que je fais? Dites-le sincèrement en croyant qu'il va répondre. Et il vous répondra. Évidemment, il ne parlera pas forcément à vos oreilles. Ça arrive quelques rares fois. Mais quand vous dites, concentrez-vous et vous allez voir, les réponses viennent dans votre esprit. Ou alors, quelqu'un vous appelle, dit quelque chose. Ou vous tombez sur un document, ou vous tombez sur une formule, ou vous rappelez quelque chose. Il répond toujours. Si on croit, qu'il va répondre. Oui.
J'enseignais le français dans une école. Et à chaque fois, je préparais comme tout le monde me fiche. Mais quand je viens en classe devant les enfants, je laisse de côté les fiches et je leur fais le cours comme ça directement. Et j'ai constaté qu'à chaque fois que je fais le cours directement sans les fiches, les enfants, non seulement que je leur enseignais beaucoup de choses, mais ils avaient plus de facilité à me comprendre dans mon enseignement. Donc, j'ai généralisé tout ce que je faisais, de telle manière que je prie seulement et je viens faire le cours. Bon. J'ai constaté que les enfants, bizarrement, ont commencé par m'aimer, à être avec moi tout le temps. Moi, mais je ne savais pas que c'est parce qu'ils voyaient en moi un professeur différent. Je ne sais pas si c'est de l'orgueil, excusez-moi beaucoup, hein. Je n'ai pas les thèmes. Donc, tout le temps, il s'attroupait autour de moi, je l'ai expliqué. Et je n'ai jamais réalisé que c'était parce que je n'élaborais plus de fiches que tout allait comme ça. Et à chaque fois que j'élaborais de fiches, alors là, le cours, c'est vraiment du n'importe quoi. Et je ne me suis jamais satisfait. Et parmi les enfants, il y en a qui m'ont dit de laisser les fiches. Donc, quand vous parlez tout à l'heure, à un moment donné, je me suis dit, ah, cette affaire-là, c'est pour moi.
C'est une question de foi.
Merci.
Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une question de foi. C'est-à-dire que si vous connaissez Dieu, vous finirez par découvrir que le Saint-Esprit n'a pas besoin de support pour vous guider. Et c'est le problème de beaucoup de personnalités, de cadres intellectuels. Ils sont prisonniers de leurs livres, de leur système, de leur théorie, au lieu de laisser leur esprit et leur corps être utilisés par Dieu. Quand un homme vous parle du fond du cœur, c'est toujours différent de quand il y a un discours. C'est pour ça que moi, je ne lis jamais un discours. Je n'ai jamais lu de discours dans ma vie, je n'en lirai jamais. Parce que c'est faux. Tout discours est hypocrite. Tout discours est hypocrite. Parce que quand tu as écrit d'avance ce que tu vas dire à des gens que tu n'as pas encore vu, tu es un menteur. Tout discours est un hypocrite. Si je vais dans une salle, je vois quelqu'un de triste, je dois pouvoir dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes triste par ici, là. Et on commence par là. Mais je ne peux pas venir avec un discours. Excellence, mesdames, messieurs, on aura le plus plein de niaiseries comme ça. Et on finit par dire, c'est sûr, c'est notre espoir. Espoir depuis 60 ans, on n'en voit jamais. Que je déclare clause des présences assises. Ils viennent tous dire la même chose tous les jours depuis 60 ans. À un moment, ça fait faux. Il faut être vrai. La Bible dit, tout ce qui est fait sans conviction n'est que péché. Trop de gens parlent sans conviction. Les gens enseignent sans conviction. Ils prennent des décisions sans conviction. Ils raisonnent sans conviction. Mais la conviction ne peut pas venir de papier. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais lire, qu'il ne faut jamais avoir de support. Mais il faut chercher à être un peu vrai. Disons qu'au lieu de suivre vos fiches, cherchez à suivre un peu votre esprit. Dieu arbitre votre vie dans votre esprit. Écoutez un peu votre conscience. Et vous allez certainement avoir dedans des directions qui sont peut-être contraires à ce que veut la logique, le système, les plans, mais qui au final sont dans la vérité. On va continuer demain. Donc, on a commencé à voir ce qu'est la sagesse. Sagesse de Dieu, sagesse des hommes. Nous l'avons déjà vu. Tout le problème du monde, c'est d'essayer de fonctionner dans une série de systèmes de connaissances fabriqués par les hommes. Tout ce que les hommes ont comme connaissance n'est pas faux. Certaines choses sont issues de la vérité biblique, mais beaucoup, beaucoup de choses, la majorité du système humain de connaissance est faux. Et donc, si vous faites l'erreur, et presque tous les jours, c'est pas tous les jours, presque tous les jours et toutes les minutes, vous allez avoir pour défi de choisir entre la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. C'est toujours le cas. Vous voulez quitter la maison, par exemple, votre gardien n'est pas là. La sagesse des hommes, c'est s'inquiéter. Je dis à mon épouse, mais tu penses que le Saint-Esprit aussi est absent? Le Saint-Esprit, que tes anges s'occupent de cette maison, moi je m'en vais. Et il fait tout, je dis, oui, c'est tout. Dieu a permis que j'ai cette ainsi beaucoup, beaucoup de témoignages de ce que ça marche. J'ai déjà raconté ici le témoignage des pasteurs qui ont laissé leur moto en les confiant au Saint-Esprit. Ils sont partis, ils sont venus, et quand ils sont venus à leur moto, il y avait des badauds du quartier qui sont approchés de pour dire, mais où sont les gars qui étaient ici tout de suite là? Le pasteur dit non, qui était là, je sais pas. Il dit, mais il y avait des gens ici, il y avait des gars là qui étaient autour de votre moto, ils ont disparu, ils sont où? Et le deuxième pasteur a dit à celui qui parlait, dit, laisse. Quand il n'est pas dit, mais tu oublies qu'en partant, on a prié pour confier notre moto au Saint-Esprit. Certainement que tu as posé ces anges, nous on ne les voit pas, mais ceux qui étaient venus pour nous cambrioler, pour prendre moto, ont dû rencontrer en face de l'armée qui les a effrayés. Donc ils attendaient de voir, mais c'est la moto de qui pourrait y aller par tant de gars. Quand on est arrivé, les gars ont disparu. Donc, c'est un peu comme quand ils essaient de vous envoûter là, ça ne marche pas, ils disent, oh, mais ami, ça t'a connu. C'est un maître dit, mais j'ai tout essayé, ça ne marche pas, qu'est-ce que je trouve? C'est ça. Donc ils sont venus pour voir, mais qui étaient les gars qui gardaient? Et j'ai eu un autre témoignage, il y a quelques jours, d'une soeur qui s'appelle Mirabelle. Elle m'a dit que son mari était un très grand païen. Il est maintenant diacre d'une église. Et qu'il avait un jeune homme qui venait de je ne sais trop quel village pour lui faire souvent des pratiques occultes, son genre de féticheur. Et à un moment, quand il a donné sa vie à Jésus, elle l'a convaincu progressivement, elle a laissé toutes ses idolâtries. Et ils n'ont plus jamais vu ce jeune homme. Et un jour, ils étaient en train de marcher dans leur quartier quand ils ont croisé le jeune homme. Et donc, la dame qui est chrétienne taquinait le jeune homme en disant, mais... je viens chaque fois. Votre gardien, là, il me chasse. Je dis, mais quel gardien? Je n'ai pas gardé ici. Le gardien, le gardien libanais que vous avez là, il est tout le temps habillé en blanc. Et puis, il a une grande épée là. C'est lui qui me chasse chaque fois que j'arrive. Il faut lui dire que je suis votre ami. Elle dit, gardien libanais. Et elle s'est rappelée. Elle dit, ah, je connais mon gardien libanais maintenant. Il faudrait lui demander, mais sous quelle forme il est arrivé pour voir gardien libanais dans ma maison, alors que je n'ai pas de gardien. Et il y a de plus en plus de témoignages comme ça. Nous passons tout notre temps à stresser le système de sécurité, vigile, policier, alarme, plein de choses. Écoutez, il y a maintenant les motos qui ont alarme, les bandits viennent, ils prennent la moto, ils te déposent l'alarme par terre, non? Ou bien?
Oui.
Hein? Ça correspond à la parole de Dieu. Si Dieu ne veille, c'est en vain que les veilleurs veillent. Même les banques là, avec tous les dispositifs, Les gens, si quelqu'un veut braquer, il braque, rien ne se passe. Mais tu ne peux pas confier en ayant la foi quelque chose à Dieu et tu vas venir découvrir que le système a failli. À moins que Dieu, dans ton intérêt, ait décidé de laisser partir la chose. Si tu confies avec foi quelque chose à Dieu et la chose est volée, il faut aller faire la fête. Parce que pour que Dieu laisse au voleur ce que tu lui as confié, c'est que cette chose n'était pas bonne pour toi. Je donne un exemple. Le diable a planifié que tu prends ta moto d'ici, tu vas faire un accident là, tu vas mourir. Dieu a-t-il lui-même voleur qui prend ta moto? Tu sors, tu pleures. Dieu vient t'évoquer de mourir avant de rentrer à la maison. Quand on confie ses affaires à Dieu, le moindre problème doit être une occasion de fête. Parce que pour que Dieu laisse le problème que tu as vu, il a dû le comparer à terriblement pire. Et c'est ça la foi. Quand vous connaissez Dieu, quand vous craignez Dieu, on verra demain en détail, dans chaque domaine de la vie, la vérité existe. Ce qu'il faut savoir existe. Ce qui est vrai existe. Avoir de la sagesse, c'est le savoir. C'est le connaître. Et donc, agir selon ce qui est vrai et non pas selon le système du monde. Un homme sage, c'est un homme qui comprend d'abord ce principe-là et qui, en consommant la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit quelque part que, d'ailleurs avec Josué, médite la parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Mets en application tout ce qui est écrit et tu réussiras dans toutes tes entreprises. La sagesse n'est pas quelque chose de se vanter pour dire je suis intelligent. La sagesse te donne une capacité à faire tout ce que tu as à faire avec bonheur et succès et paix. Si tu as vraiment la sagesse, tout problème doit s'effacer devant toi. La sagesse n'est pas là pour dire je suis vieux. D'ailleurs, il n'y a aucune corrélation entre la sagesse et les cheveux blancs. Beaucoup de vieux aujourd'hui sont très très peu sages. Et il y a des jeunes qui sont sages. Vous prenez Timothée par exemple dans la Bible, comme le dit Paul, que personne ne brise sa jeunesse. Jésus avait 33 ans, hein, entre parenthèses. Je pense que même les ésotériques l'appellent le plus grand maître. Donc Jésus n'était pas vieux. David n'était pas vieux quand Dieu l'a préféré à tous les autres. Donc, il n'y a aucune corrélation entre la sagesse et les cheveux blancs. Ce que les cheveux blancs donnent, c'est l'expérience de la sagesse humaine. On présume que quel que soit maintenant quelqu'un bête, à force de vivre longtemps, il finira quand même par avoir différents cas de figure. Qui fait que dans la sagesse mondaine, il en saura a priori un peu plus qu'un jeune. Et même là encore, ce n'est pas vrai toujours. Il y a des jeunes qui ont la capacité de comprendre beaucoup plus vite. Mais la sagesse venant de Dieu, la révélation des choses vraies, il n'y a aucune corrélation entre l'âge et cela. Dieu peut le donner aux vieux, il peut le donner aux jeunes. Mais on n'a pas besoin d'être vieux pour en recevoir. Bien au contraire, Dieu dit qu'il prendra les choses les plus petites pour confondre les sages. Il prend les enfants pour confondre les vieux. Il prend les fous pour comprendre les intelligents. Il a d'ailleurs dit le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme des enfants, pas comme les vieux. Donc, attention, il n'y a pas de corrélation entre sagesse et cheveux blancs. Donc, pour réussir, vous devez connaître la vérité. Connaître ce qu'il y a à connaître, comme le dit le dictionnaire, sur les choses qui ont rapport aux hommes et à Dieu. Vous ne pouvez trouver ça que dans la Bible. Et c'est pour ça que Dieu dit à Josué, si tu connais la parole et que tu la médites, tu la comprends. Ce n'est pas de lire. Hein. Vous pouvez lire la Bible du début à la fin 10 fois sans rien comprendre. Une révélation d'une phrase de la Bible vaut mieux que 100 lectures de la Bible. Si vous recevez la compréhension de la Bible, vous allez découvrir dedans que chaque chose que vous comprenez dans la Bible accroît votre capacité. Et vous devenez quelqu'un de sage qui impressionne tout le monde quand vous avez découvert assez de vérité de Dieu pour que dans votre fonctionnement quotidien, ces vérités-là viennent s'imposer à la réalité. Dans tous les problèmes que vous avez, à un moment, moi par exemple, mes réactions aujourd'hui ne sont plus déterminées par la logique. Mes réactions sont déterminées parce que je sais être la vérité. Il faut arriver à un moment où, comme le dit la Bible, toute chose doit devenir nouvelle. Vous devez renouveler votre intelligence en Jésus. C'est-à-dire que votre intelligence de logique, de principe, de loi, de cause et effet doit être balayée au profit de la découverte des vérités. La vérité, par exemple, c'est que ce que tu dis s'accomplit. Si tu sens les maux de tête, tu n'as pas le droit, si tu connais la vérité, de dire j'ai mal à la tête. Parce que tu viens de décréter les maux de tête. Tu vas dire, c'est comme si je sentais des maux de tête, mais je les rejette au nom de Jésus, parce que de ça, je sais déjà à couper à la croix. Ça t'en fout le camp. Tu dis ça, tu l'oublies, tu vas te rappeler 10 minutes, mais j'avais un mot de tête tout à l'heure, ça a disparu. Mais si tu ne sais pas ça, ce qu'on t'a appris à l'école, c'est description des problèmes. J'ai mal à la tête. Tu viens de signer un chèque. Tu as décrété que tu as le pouvoir de la parole. Satan m'a dit, tu as entendu? Il a dit. Tu as dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il a pris sa langue pour dire qu'il est malade. On lui applique la dose. Combien de personnes ne disent pas qu'ils ont les problèmes? Toi, tu es trop bête. Quand tu dis à ton enfant que tu es bête, tu es en train de prophétiser la bêtise sur sa vie. Mais ça, on ne le sait pas quand on ne connaît pas la vérité. Quand tu dis, actuellement là, je suis pauvre, tu as décrété la pauvreté sur ta vie, c'est ton problème. Moi, je ne peux pas être pauvre. Mes poches sont vides. Mes comptes bancaires sont vides. Mais heureusement, au nom de Jésus, je suis riche. C'est des détails qui n'ont l'air de rien. Mais seule la vérité peut te donner ça. De telle sorte que plus tu connais Dieu, plus tu es sage, plus je comprends la Bible. Si quelqu'un te voit foncer, il va te prendre pour un fou. Demandez à mon épouse. Des fois, les gens, même pas des fois, tous les jours, les gens font des choses et ma réaction lui paraît bizarre. Et comment tu fais pour t'en foutre de tout comme ça? C'est pas que je ne décide pas. Ce que je sais de Dieu ne me permet pas de me stresser. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Quand vous découvrez la vérité vous affranchira. Vous savez par exemple que la colère, c'est un esprit. Vous savez pourquoi il vient. Quand par exemple quelqu'un est en colère, il ne décide de rien. Un homme en colère fait ce que Satan veut, rien d'autre. Quand on est en colère, on finit de faire les choses avant de réfléchir à voir si c'est normal. Et quand la colère passe, on a toujours honte de ce qu'on a fait pendant qu'on était en colère. Toujours. Regardez bien. Quand la colère arrive sur quelqu'un, c'est comme si Satan lui applique un somnifère pour maintenant lui passer les doses. Quand vous êtes en colère, surtout si vous êtes du genre à rester en colère longtemps, vous allez multiplier les gaz. C'est pour ça que la Bible dit ne soyez pas en colère. Quand vous êtes en commun, ne commettez pas de péché. Parce qu'il est rare que quelqu'un puisse être en colère sans commettre de péché. La colère est un bataillon d'esprit que le Satan envoie sur quelqu'un pour le maîtriser avant de lancer d'autres règles du péché. Quand vous comprenez ça, quand on essaie de vous énerver, vous riez, vous dites, il va encore venir. Fous-moi le camp, moi je ne m'énerve pas, je passe à autre chose. Tout pour courir de ce qui aime Dieu. Donc, vous ne pouvez pas connaître la vérité et réagir comme un homme ordinaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas qu'on décide de ne plus réagir. Hein. Quand vous découvrez la vérité, vous ne pouvez plus réagir comme un homme ordinaire. Et c'est là où on dira que vous êtes fou. Ce n'est pas pour rien que le dictionnaire lit sagesse et chrétien. Pour beaucoup de gens du monde, les chrétiens sont des fous. Mais dans leur folie, ils ont la paix que le monde n'a plus. Ils ont la joie que le monde n'a plus. Ils ont la prospérité que le monde n'a plus. Si c'est des vrais chrétiens, il y a une question là, on va terminer par ça. On va continuer demain.
Je vous remercie. J'avais trois questions, mais j'ai obtenu déjà deux réponses.
Comme et quoi, le Saint-Esprit connaît ce que je ne connais pas.
Maintenant, c'est au sujet de la science.
Oui.
En fait, nous apprenons beaucoup de choses à l'école qui est basée sur la connaissance scientifique. Et nous savons que la science, c'est le relativisme. Et la parole de Dieu, c'est l'absolu. Alors, ce que moi, je voulais demander, c'est d'abord, qui est maître de la science et partant de là, de la technologie? Et quelle place on peut accorder à tout ça dans notre vie, c'est-à-dire dans la vie de chrétien?
Alors, il faut faire attention dans ce qu'on appelle science. La science comme révélation de comment les choses fonctionnent, des lois de la nature, des liens de cause à effet entre les choses, vient de Dieu. C'est Dieu qui a fabriqué les choses. Qu'on découvre qu'on peut accélérer les atomes pour produire de l'énergie, c'est une découverte de ce que Dieu sait et ce qu'il a fait. Ce n'est pas nouveau. D'accord? Donc, regardez bien, les découvertes scientifiques n'inventent rien. Elles découvrent quelque chose qui a toujours été. Regardez bien. Une découverte scientifique n'invente pas quelque chose. Ça découvre quelque chose qui a toujours été. Ça finit par comprendre ce qui a toujours été. D'accord? Parfait. Donc, en tant que tel, d'ailleurs, la Bible parle de science. Lisez le livre des Proverbes, vous allez voir, on parle beaucoup de science. Quand, par exemple, aujourd'hui, la science nous dit que ce n'est pas bon de manger de la viande, que le poisson est meilleur pour la santé. Vous avez jamais vu Jésus manger de la viande dans la Bible? Il a multiplié le poisson, il n'a jamais multiplié de viande. Il a aidé des pêcheurs, il n'a jamais aidé des chasseurs. Dans le désert, chaque fois, ils ont demandé la viande. Quand Dieu leur a donné la viande, la Bible dit qu'ils ont mangé encore quand ils sont tous morts. Ou bien, c'est ça, non? C'est pas hasard. Ça paraissait hasardeux jusqu'à ce que les gens comprennent qu'il y a derrière un grand principe scientifique. Depuis Daniel indiquait déjà clairement que lui ne veut pas manger de fromage, de vin, de chocolat, de jambon, même si le roi lui en propose. Il préfère nourrir les siens aux fruits secs, à l'eau, aux légumes. Et la Bible dit que les enfants de Daniel, qui mangeaient comme ça, étaient plus intelligents, plus forts et en meilleure santé que les enfants du roi, qui mangeaient chocolat, beurre, jambon, mayonnaise et consort. C'est aujourd'hui qu'on découvre ça, avec le diabète. Ça a été écrit il y a des millénaires. Donc, la science, après avoir fait le malin pendant longtemps, par exemple, la Bible dit depuis des millénaires, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ils ont dit que c'était faux. Aujourd'hui, ils ont découvert en sciences psychologiques et je ne sais pas trop quoi là, que le cœur du système nerveux, c'est le cœur de la parole. Donc, ils ont démontré scientifiquement que la parole contrôle tout le système nerveux. Mais il leur a fallu du temps pour comprendre, et ils n'ont même pas compris, pour essayer de réaliser ce qui est écrit depuis si longtemps. Quand on dit la tristesse est une carie pour les os, c'est écrit avant Jésus, donc au moins depuis 3000 ans. C'est maintenant qu'ils découvrent les maladies qu'ils appellent, comment ils appellent ça? Les maladies, les trucs psychosomatiques et consorts. C'est aujourd'hui qu'ils ont découvert que l'état d'esprit, le stress, tue. Mais ça fait 3000 ans que c'est écrit. Donc la science n'a rien inventé. Elle fait de temps en temps un peu le malin dès qu'elle comprend une partie des choses. En attendant de révéler qu'elle n'a pas tout compris. Donc la science comme compréhension, comme révélation de comment les choses marchent vient de Dieu, c'est Dieu qui a fait les choses. Et hélas, de temps en temps, quand Dieu donne, d'ailleurs j'ai lu un document qui montrait que la plupart des grandes inventions scientifiques ont été faites par des chrétiens, ou en tout cas par des gens très pieux. Regardez les grandes inventions, il n'y a pas beaucoup d'Arabes, il y a des Juifs, il y a des Américains, il y a des Européens. C'est la culture chrétienne. Et avant ça, c'était l'Égypte. C'était encore spirituel, regardez bien. Rien n'a jamais été inventé en économie qui soit meilleur que le plan Joseph. Donc, quand vous regardez bien, vous faites un peu de recherche, vous allez voir que les grandes inventions là sont de grandes révélations de Dieu à ses enfants. Le monde crie et extasié, mais si on devait vous conter le fond des choses, c'est une grande révélation, ce n'est pas une grande invention. Donc, la science est tantôt, et dans ce sens-là, elle vient de Dieu, la révélation, le point de voile que Dieu lève sur une partie de ses mécanismes. Il révèle à l'homme ce qu'il veut et il garde pour lui ce qu'il veut. Maintenant, certaines personnes comprenant ces mécanismes, ayant un cœur qui ne craint pas Dieu, ayant un cœur diabolique et se laissant guider par Satan, puisque les lois sont des lois. 1 plus 1 égale à 2. Quand on met de l'eau au congélateur, tout chose est égal par ailleurs, qu'on soit gentil ou méchant, ça devient de la glace. Quand les hommes animés par Satan comprennent certaines lois, ils les travestissent pour les mettre au service de Satan. En réalité, il n'y a pas de technologie qui soit mauvaise. On dit Internet. Mais moi, j'apprends énormément de choses sur le Seigneur par Internet. Mais l'Internet est aussi le plus grand vecteur de pornographie, d'homosexualité, de pédophilie, de crime, et qu'on sort. Est-ce que pour autant on va dire que Internet a été inventé par le diable? Non, Internet n'est pas inventé par le diable. Mais si on est un enfant du diable, écoutez, si vous êtes un soldat, je vous donne une arme. Si vous êtes un soldat béninois, vous allez tuer des non-béninois. Si vous êtes un soldat peut-être nigérien, vous allez tuer des béninois. Ce n'est pas l'arme qui tue des béninois. C'est celui qui tient l'arme qui fait du bien ou qui fait du mal. Quand vous découvrez la science, c'est pour ça que les scientifiques eux-mêmes disent, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les scientifiques eux-mêmes, derrière leur prétention, parfois, ils sont très relativistes. Si vous découvrez ces lois-là, que vous ne craignez pas Dieu, vous pouvez les mettre au service du mal. Donc, ne tombez pas dans le piège, comme certains le disent, un chrétien ne doit pas regarder la télé, un chrétien ne doit pas écouter la musique, tout ça, c'est des niaiseries. Toute chose est bonne dans sa conception. Après, qu'est-ce que vous en faites? Écoutez, ce que moi, je peux faire dans l'évangélisation de mon bureau par Internet, je suis sûr qu'à une certaine époque, même en passant 10 ans à distribuer des traités, vous ne pouvez pas le faire. Alors, pour qu'on me dise qu'à cause de la pédophilie, Internet est mauvais, c'est qu'on ne regarde pas les choses dans leur ensemble. Donc, les chrétiens doivent arrêter de se mettre en marge de la science. On dit, je suis chrétien, je n'ai pas besoin de réfléchir. Non, le chrétien doit suivre la société, doit suivre les débats de société, doit suivre les problèmes du monde, afin de démontrer dans ces problèmes-là que lui, il a une intelligence supérieure, qu'il a une sagesse supérieure, qu'il vient de Dieu. On ne peut pas s'enfermer dans nos églises en disant qu'on est des chrétiens. Nous devons manifester la puissance de Jésus dans la vie. Et pour ça, il ne faut pas mépriser la science ou la technologie. Il faut les comprendre, mais les utiliser en craignant Dieu. D'accord? Nous allons prier, nous continuons demain.
Excellent Père de gloire, je veux te dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'une fois encore tu as été là. C'est vrai Seigneur que j'étais très fatigué. Je te remercie parce que j'ai roulé toute la journée hier, j'ai roulé toute la journée lundi, j'ai roulé toute la journée aujourd'hui. Mais tu m'as permis de sortir de ce long voyage et d'avoir encore la force d'enseigner ta parole sans m'y être préparé. Je te remercie Seigneur. Merci Seigneur parce qu'éternellement fidèle, tu es toujours là. Chaque fois que nous avons le temps de venir à tes pieds, tu es toujours là. Tu réponds toujours avec autant de merveille, autant de brio, autant de célérité. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos cœurs respectifs aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ce que tu as donné à chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ceux et celles que tu as édifiés. Qu'il te plaise, Seigneur, de faire de ce jour un nouveau départ, une nouvelle naissance pour nous en matière d'acquisition de la sagesse. Qu'il te plaise, Seigneur, au nom de Christ Jésus, de briser tous les liens qui nous lisent encore à ces raisonnements qui s'élèvent contre ta connaissance, à cette sagesse païenne, à cette intelligence, à cette théorie vile qui nous empêche d'ouvrir les yeux, de voir que tu es Seigneur. Seigneur, fais-nous la grâce de revenir à la vérité. Enlève les écailles de nos yeux. Donne-nous de voir la vérité. De voir la vérité. Donne à chacun de nous la force de rejeter toutes ces vérités qui ont pour définition d'aller à gauche, à droite et partout à la fois. Oui, Seigneur, qu'il te plaise de donner à chacun de ceux qui sont ici la grâce de ne plus être jamais l'otage des thèses, antithèses et synthèses. Donne-nous la grâce, Seigneur, de rechercher la vérité, de venir à tes pieds pour apprendre la vérité. Donne-nous d'écouter la vérité, de comprendre la vérité, de mettre en application la vérité, de réussir dans tout ce que nous ferons au nom de Christ Jésus. Oui, Seigneur, je te prie, dans notre pays de Bénin, en Afrique en général et dans le monde, de faire échouer encore plus que tu le fais aujourd'hui, toute cette théorie païenne, tous ces modèles sataniques qui sont en train de nous embrigader, toute cette théorie qui donne l'impression aux gens inavertis qu'elles sont brillantes.
qu'il te plaît, Seigneur, de continuer de les confondre, de les mettre à nu, afin que ceux qui sont de bonne foi réalisent que tu es le seul Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu souffles un vent de ta sagesse, un vent de ta crainte, un vent de ton intelligence, un vent de tes bénédictions, un vent de ta faveur sur notre pays, le Bénin. Oui, Seigneur, nous avons plus que jamais besoin de toi dans ce pays. Non pas seulement en chantant, en dansant, mais donne à chacun de nous de s'intéresser à ce pays, d'intercéder pour ce pays, de prier pour ce pays, Seigneur. Mais donne-nous la force, chacun, d'être des vecteurs de paix. Donne-nous la force, Seigneur, d'être des témoins de Jésus. Donne-nous la force, Seigneur, d'être des gens qui donnent envie. Que par les temps difficiles, on puisse dire en nous voyant, c'est différent pour vous, partagez avec nous le secret. Oui, Seigneur, fais de nous des sujets de réussite extraordinaire. Que quand le monde pleure, nous soyons en paix. Que quand le monde est triste, nous soyons en joie, Seigneur. Que quand le monde est malade, nous soyons guéris, source de guérison, Seigneur. Que quand le monde est pauvre, nous soyons prospérité. Que nous n'en prêtions plus, c'est les autres, mais que plutôt ce soit nous qui le prêtions. Oh Seigneur, fais de nous des témoins. Fais des membres du club Jésus pour réussir une race à part, une race de chrétiens prospères, qui t'aiment, qui te servent, qui t'obéissent, qui sont humbles, mais qui portent des fruits. Oui, Seigneur, tu as dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation de tes vrais enfants. Donne-nous la grâce d'être de ceux-là, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu étais là. Merci, Seigneur, parce que tu bénis chacun dans ses affaires. Tu bénis chacun dans son travail. Tu connais le cœur de chacun de nous. Tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur. Dis seulement, moi, nous serons guéris. Fortifie-nous, éclaire-nous, instruis-nous. Guide-nous, Seigneur. Donne-nous d'avoir la grâce de l'intimité de ton Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos pensées, de nos paroles, de nos actions et de toutes nos omissions, Seigneur. Nous voulons être tes esclaves. Merci, Seigneur, parce que tu protèges chacun de nous dans son retour. Tu veilles sur nous, tes anges nous accompagnent. Ils sont avec nous partout où nous sommes. Ils veillent sur notre vie. Ils veillent à ce que nous obéissions, Seigneur, que nous marchions dans tes voies et que rien ni personne, ni la mort, ni l'enfer, ni les anges, ni la domination, ni rien du tout ne vienne nous séparer de ton amour. Seigneur, nous te disons infiniment merci pour tout cela. Merci, Seigneur, parce que nous sommes encore unis demain, dans le même esprit, avec foi, pour t'écouter, pour apprendre, pour grandir. Fais de nouvelles choses encore demain dans notre vie et qu'il te plaise de garder ta faveur sur ce pays au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Je te remercie aussi pour tout ce qui a été aux examens. Nous sommes réunis ici, nous t'avons prié. Nous avons prié, entre autres, de manière juste à édifier la foi des gens, pour qu'à aucun examen cette année, ni au CP, ni au BPC, ni au bac, pas une seule goutte de pluie ne frappe un enfant qui va à l'examen. Tu l'as accompli, Seigneur, de manière extraordinaire. Je veux te dire publiquement merci, Seigneur. Ce n'était pas évident. Nous sommes en saison des pluies. Il pleut presque toujours aux examens. Nous avons osé élever la voix pour dire qu'il ne pleuvra cette année sur aucun des membres de ce club en allant à l'examen. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait 3 sur 3. Merci, Seigneur. Je te rends témoignage pour cela. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous rappelles tous les jours que nous avons le pouvoir de nous tenir la brèche. Tu as dit que tu as voulu détruire des peuples. Il t'aurait suffi de trouver une seule personne qui élève la voix. Et tu n'as trouvé personne. Qu'il te plaise de toujours trouver au club Jésus pour réussir des gens qui élèvent la voix pour ce pays, des gens qui élèvent la voix pour des gens que tu veux sauver. Fais de nous des intercesseurs. Seigneur, te remercions. Que ton nom soit béni au nom de Christ Jésus. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe ?